Et merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. C'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir François-Julien ici au Centre Sèvres. Il m'a dit que c'est la première fois qu'il y vienne, donc j'espère que c'est pas la dernière. On s'est un peu perdu de vue pendant 30 ans. Lui, il continuait à travailler sa philosophie et faire de grands enjambées, je trouve, personnellement, on en reparlera tout à l'heure. Mais moi, de mon côté, j'étais plutôt en Chine, et à faire du travail d'ethnographe. Et c'est à partir de cette expérience, entre autres, que je engagerai un dialogue tout à l'heure avec François. Mais d'abord, donc, François va présenter son livre et ses réflexions sur ce qu'il appelle ce vis-à-vis de la Chine et de l'Occident pendant trois quarts d'heure, une heure. Je prendrai la parole ensuite pendant à peu près une demi-heure. On marquera une petite pause et puis on reviendra à la charge avec François qui répondra, s'il le souhaite, s'il le trouve nécessaire, aux âneries que j'aurais prononcées entre-temps. Et puis, on traitera peut-être, si on a encore le temps, de quelques questions moins centrales que la question de la transcendance et de l'immanence. Voilà, je passe la parole à François.
Merci de cet accueil, cher John. Et puis, je crois qu'effectivement, vous m'entendez pas. Vous entendez comme cela? Bon. Merci donc de cet accueil, cher John, et de ce que nous pouvons envisager de dialogue, puisque tu t'es présenté comme un homme de terrain, d'enquête. Et moi, j'ai pas de terrain, je n'ai pas d'enquête. Je suis, comme dit Socrate, atopos, sans lieu, n'est-ce pas? Sans lieu, puisque j'erre entre l'Europe et la Chine. J'ai beaucoup erré entre l'Europe et la Chine, et puis progressivement, sans jamais vouloir m'installer en Chine, mais choisissant de passer en Chine pour me décaler de la tradition philosophique européenne, lui trouver un dehors, ce dehors chinois, combien est important, et pouvoir ainsi prendre des distances, tout ce que je pouvais comme distance à l'égard de la pensée européenne, pour l'interroger du dehors chinois. C'était ma démarche. Et au fond, ce livre, Moïse et la Chine, appartient plutôt au premier temps de mon travail, qui était d'essayer d'élaborer un vis-à-vis, comme tu l'as dit, de la pensée chinoise et de la pensée européenne, pour essayer d'ouvrir un antre de réflexion entre elles. Un second temps de mon travail, commencé à peu près il y a 10-12 ans, a muté progressivement vers la question de la vraie vie, pour dire les choses rapidement. Ce qui d'ailleurs s'inscrivait dans le premier temps de ce travail, mais la plus explicité en retournant vers des questions, je dirais, générales de la philosophie. J'avais en fait prévu un triptyque pour secouer, interroger, ébranler trois grands termes grecs de la philosophie, qui étaient d'abord logos, discours raison, ensuite Eidos, forme idéale, idéalité, modèle. J'avais donc écrit deux livres à ce sujet. Et puis, il restait le troisième, Théos, Dieu. Les trois faisant triangle, à mon sens, n'est-ce pas? Le discours raison, l'idéalité, et puis Dieu. Et ce troisième terme, je l'avais laissé de côté longtemps, parce que j'avais fait un séminaire pendant 2 ans à ce sujet. 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et puis, j'avais laissé de côté, et j'y suis revenu. Et je vais essayer de dresser un peu le bilan d'un vis-à-vis possible entre pensée européenne et pensée chinoise par rapport à cette affaire qui était si importante en Europe, j'irais même autour de laquelle s'est nouée l'Europe, l'affaire de Dieu, vis-à-vis d'une remarquable indifférence de la tradition chinoise à l'égard de la pensée de Dieu. La tradition chinoise entrevoit quelque chose de cet ordre-là, Dieu, simplement ne s'investit pas en elle, ne se monopolise pas autour de ce que nous avons tant dramatisé dans la tradition européenne, Et donc, il me semble que le vis-à-vis est important parce qu'il est éclairant aussi pour nous-mêmes, de ce que nous avons investi dans cette affaire de Dieu. Alors, le titre, il n'est pas de moi. Il est de Pascal. Moïse ou la Chine. Je trouve cette formule étonnante par son intelligence et sa radicalité. Si je la reprends dans les pensées, lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? Avouez que je n'imagine pas de formule plus radicale, ébranlante, n'est-ce pas? C'est-à-dire, travaillant dans les fondements de la pensée, que cette interrogation qui a valeur d'alternative, ceci ou cela, Moïse ou la Chine, et en même temps qui est bancale. Puisque d'un côté on a Moïse, donc la figure incarnant toute l'aventure religieuse de l'Europe, le monothéisme, les commandements, la pensée du salut, et en face, non pas Lao Tzu, Confucius ou je ne sais quel sage chinois, mais la Chine. Espace de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il vaut bien la force d'objection qu'il constitue à l'égard de la pensée européenne. Alors, en plein XVIIe siècle, à une époque où croyable est si fort, parce qu'il porte de croyances, et à une époque où on sait quasiment rien de la Chine, penser que Bossuet, qui écrira après Pascal, pourra composer son histoire universelle sans citer une seule fois la Chine, il y a quelque chose, un effet d'intelligence. Effet d'ailleurs si grand que Pascal n'y a pas résisté. À preuve, c'est qu'il a retiré cette formule. Il l'a barré. Vous voyez à quel point on dit quelque chose de brûlant, n'est-ce pas? Et le commentaire qu'en donne ce très grand savant qui est Brunswick à ce sujet de cette pensée de Pascal, dans le texte des pensées, où ils disent « Pascal n'a pas dit grand-chose, petit développement, mais ça montre qu'il était très curieux ». Non, je pense qu'il a dit l'essentiel. Je ne ferai que commenter la phrase de Pascal. Alors je crois qu'il y a là quelque chose qui est, alors me semble-t-il, important pour la philosophie, parce qu'au fond, en tout cas personnellement, c'est ce que je cherche quand je vais en Chine, c'est un point d'interrogation à l'égard de notre pensée, et un point d'interrogation qui n'est pas compris dans notre pensée. Donc il faut peut-être passer au dehors, effectivement, désamarrer, aller ailleurs, et quel ailleurs plus constitué que l'ailleurs chinois, pour interroger du dehors notre pensée. En tout cas, je crois que la formule Pascal nous y invite. Et elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Je suis attentif à cette tradition, notamment dans la tradition française, d'interrogation du dehors, à partir du dehors chinois, à l'égard de ce qui apparaîtra du dedans comme étant la tradition européenne. Dans mon livre, j'ai cité Montaigne, grande phrase des essais, la troisième couche des essais quant à la Chine, mais aussi, bien sûr, Pascal, mais aussi Montesquieu. Quand Montesquieu dit, il y a une chose bien triste, c'est que la Chine ne se convertira pas, je trouve génial d'avoir pu dire, après la moitié du XVIIIe siècle, d'avoir compris que pour des raisons culturelles, la religion chrétienne, porteuse d'universel, rencontrer là, je ne dirais pas une limite, mais disons une barrière, n'est-ce pas, ou quelque chose qui faisait résistance. Car je crois que plus, résistant à la croyance que l'incroyance, c'est l'indifférence. L'incroyance va avec la croyance. Ça se dialectise, ça se renverse. Mais l'indifférence, ce que les missionnaires rencontrent quand ils vont en Chine, et qu'ils y vont pour la vie, et qu'ils y vont pour essayer de convertir et donc d'intéresser à cette affaire de Dieu, bien, la résistance à cela me paraît, une épreuve pour la pensée européenne, qu'il a vraiment remis en question et qui mérite notre réflexion. Or, je vais aller très vite parce que l'enquête est longue, et je voudrais pointer quelques lieux d'interrogation. Et d'abord, le fait que nous sommes interrogés par rapport à Dieu sur une question de principe, à savoir, Dieu existe-t-il ou pas? L'existence de Dieu. Cette question qui a traversé toute l'histoire de la philosophie classique en Europe, mais qui commence chez les Grecs, parce que nous avons un verbe qui est le verbe être. Et donc la question c'est, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Et cette question de l'existence de Dieu, c'est celle à laquelle nous tenons encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a un livre absolument affreux par sa bêtise, sorti il y a un an ou deux, qui était « Et si Dieu existait ?» n'est-ce pas? question qu'on remet sur le tapis comme ça de façon récurrente, parce que c'est un moulin financier, disons. Donc c'est effectivement la question grecque. D'abord, et admirablement dite par Protagoras, quand il dit « Des dieux, on ne sait ni s'ils sont, ni s'ils ne sont pas, à cause de la brièveté de la vie humaine et de l'aspect compliqué de la question. » Donc on s'y épuiserait. Une formule comme ça, d'agnosticisme, comme on dit, n'est-ce pas ? Donc c'est une question que nous ne pouvons pas ne pas nous poser dans le cadre européen, et dont je constate qu'elle ne se pose pas, ou même qu'elle n'a pas à se poser dans le cadre chinois. Pour la bonne raison, c'est que la Chine ne pose pas ce verbe être, autour duquel s'est nouée la pensée européenne, l'ontologie, le logos de l'être. Elle ne le possède pas, puisqu'on peut dire en chinois se trouver là, on peut dire subsister, il y a, mais non pas être au sens absolu, au sens d'existence. On peut dire la prédication, on peut pas dire être au sens de être, ne pas être, l'être, le néant, to be or not to be. Donc la question de l'existence de Dieu, question pour nous de principe, au départ de la pensée, n'a pas à se poser. Donc vous voyez, quand on passe en Chine, c'est pas que des questions trouveraient d'autres réponses que celles que nous avons. C'est plutôt que nous voyons que les questions que nous nous posons, que nous ne pouvons pas ne pas nous poser, là-bas, ne se posent pas, ou n'ont pas à se poser. Non pas se résolvent, mais se dissolvent. Alors là, je trouve que pour la philosophie, eh bien, ça donne de quoi penser. Bon, il suffit de regarder dans le Lao Tzu, n'est-ce pas, ce qu'il a dit du Tao, quand il est dit que Tansi Sorotsun, peut-être ça se trouve là, n'est-ce pas, le sujet n'est pas vraiment désigné, je dis le Tao parce que c'est plus commode, n'est-ce pas, parce que nous, dans notre langue, il faut un sujet support de la phrase, un sujet dénoncé. En chinois, c'est pas forcément ici, puisque la chinoise ne conjugue pas. Mais disons, on a l'idée que comme qu'on regarde en haut d'un puits, n'est-ce pas, on regarde, il n'y a pas, n'est-ce pas, c'est flou, c'est vague, indistinct. Et indistinct, c'est le terme dont on qualifie le Tao. Indistinct, vague, ou huang, n'est-ce pas. Donc, il ne se laisse pas saisir par la détermination, et d'abord, la détermination de l'être. Vous me suivez comme ça? Bon. Parce que si vous ne m'entendez pas par le micro, le dialogue sera difficile. Donc je crois qu'il y a là, via la Chine, de quoi interroger la pensée de Dieu, non pas pour la critiquer, non pas pour fournir une fois de plus ce moulin de l'athéisme, mais pour la concevoir dans ses conditions de possibilité. D'abord parce que Dieu, c'est quand même le mot le plus étrange. À la fois c'est le mot le plus unitaire, sans synonyme, sans équivalent possible, Dieu. Et en même temps, c'est le terme peut-être qui dissimule la plus grande équivoque. Dieu est fendu en deux. Puisqu'il y a le Dieu dont je parle, Dieu de la théologie, le Dieu à qui je parle, à qui je m'adresse, de la prière. Dans quelle mesure les deux communiquent-ils? Donc le Dieu principe et le Dieu personne. Et celui qui l'a bien dit, encore une fois, c'est Pascal. Dans ce fameux mémorial, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom des philosophes et des savants. Donc Dieu est fendu en deux. Cette affaire de Dieu, elle est si, pour nous, si embarrassante, d'abord parce que, voilà, il y a cette tension interne qui donc l'active aussi. D'autant plus que si je distingue ainsi le Dieu principe, enfin si je distingue, c'est pas moi bien sûr, c'est la tradition, le Dieu principe et le Dieu personne, le Dieu qu'on aurait à connaître, et puis le Dieu qu'on rencontre, le Dieu de la Bible. Toute la Bible est construite autour de la rencontre. Rencontre de la tente de la rencontre, rencontre du Sinaï, et puis dans le, j'aime pas dire le Nouveau Testament, le Second Testament, eh bien, la rencontre qui s'effectue comme ça, Dieu, Christ parmi les hommes. Mais en même temps, si on oppose les deux, Dieu spéculatif et le Dieu du ré mystique ou de la prière, le Dieu rationnel et le Dieu de la révélation, on voit bien qu'il y a un rapport ambigu entre les deux. J'ai dit équivoque, mais c'est ambigu. C'est ambigu parce qu'on voit bien chez Plotin ce qui, disons, va ensuite, Plotin, à Rome, s'exprimant en grec, et dans la tradition du platonisme, va servir d'argument, d'élément pour, disons, la tradition d'Amboise et d'Augustin. Donc, à quel point, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un instant dans ce développement, Dieu est une figure énigmatique, qui ne cesse d'interroger. Et pour moi, ce sera en fait Dieu, si je résume, une sorte d'effet d'effraction dans la pensée, un effet vertigineux de sens, porté par cette énigme. Et je crois que c'est ce que nous fait découvrir d'autant mieux la pensée chinoise, passer à côté de ce vertige ou de cette effraction. En tout cas, il me semble que la présupposition de Dieu, qu'on y croit ou pas, est ce qui a fait, qui a été si, comme ça, a fait socle dans la pensée européenne. C'est pour ça que j'ai parlé de d'ébranlement par la Chine. Parce que l'ébranlement, c'est dans les fondements que ça se passe. C'est pas une critique. Et qui fait que la Chine nous permet de nous interroger sur du dehors, sur ce qui s'est noué comme ça de si crucial dans la pensée européenne. Alors, je précise, je le dis souvent parce que c'est un malentendu que je n'arrive pas à expulser quant à mon travail, je ne compare pas. Même si je prends d'un côté l'Europe, de l'autre la Chine, et que je les mets en vis-à-vis, je ne compare pas. Je ne cherche pas les ressemblances et les différences. Je ne cherche pas à savoir si la Chine, c'est comme nous, ou si c'est différemment de nous. Cette question, je la laisse de côté, elle ne me paraît pas pertinente. Ce que j'essaie de faire, c'est autre chose. C'est organiser des vis-à-vis, un vis-à-vis réflexif. C'est-à-dire où une pensée, une langue, se réfléchissent et s'interrogent dans l'autre. Où une pensée et une langue, parce que je dis langue-pensée, pour moi les deux font une seule notion, eh bien, se réfléchissant dans l'autre, peut donc envisager dans l'autre quel est son propre impensé. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas ça en Chine, c'est d'interroger quel est l'impensé de la pensée européenne, et réciproquement bien sûr. Donc je ne compare pas, je n'oppose pas, j'essaie d'organiser des vis-à-vis réflexifs entre langue-pensée chinoise, langue-pensée européenne, de façon à remettre en mouvement la pensée. Et ce qui a été mon ambition de jeunesse, à savoir essayer de... Vous savez, on dit communément, philosopher, c'est penser autrement. Oui, mais comment penser autrement? Quelles sont les conditions de cet autre? Moi, j'ai fait le choix de passer par la Chine pour trouver justement un support par extériorité qui nous permette d'envisager du dehors notre pensée ou ce que Nietzsche appelait l'atavisme de la philosophie. C'est-à-dire, souvent la philosophie n'est pas sortie. Ce qui m'intéresse étant de savoir non pas ce que pense la philosophie, mais ce qu'elle pense à penser. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pense pas à penser, à côté de quoi on passe, n'est-ce pas, dans la pensée. Et donc, pour moi, la Chine, c'est cette stratégie qui permettrait d'avoir comme ça une sorte de prise oblique sur l'impensé de notre pensée. Je dis prise oblique, comme dirait Nietzsche, ruse, parce que sinon je le penserais. Il faut donc du biais, de l'obliquité, il faut donc quelque chose de l'ordre d'une stratégie, et ma stratégie philosophique est donc passée par la Chine. Alors, si je ne pense pas en termes de ressemblance et de différence, je penserai en termes, non pas de différence, mais d'écart, et d'identité. Non pas d'identité, le mot vient tellement facilement à la bouche, non pas de différence, mais d'écart, non pas d'identité, mais de ressources. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, d'explorer les ressources de la pensée européenne comme de la pensée chinoise. Je pense le philosophe comme un sourcier, quelqu'un qui explore des ressources de pensée. Non pas pour critiquer, non pas pour renverser, mais pour voir comment il y a des ressources diverses de pensée, d'abord des ressources diverses de langue, et que cette diversité donne à penser. Que je pense qu'à notre époque, c'est indispensable, puisque nous sommes la première génération à pouvoir circuler entre les cultures. Notre horizon n'est plus celui seulement de la culture européenne. Nous sommes amenés à circuler entre elles et donc à organiser ces vis-à-vis qui peuvent, comme ça, remobiliser la pensée. D'autant plus que, comme il y a une uniformisation portée par le marché mondial, portée par le globish, portée par tout ce qui, comme ça, comme une sorte de rouleau compresseur, vient écraser tous ces écarts de pensée, eh bien, je pense qu'il est temps, justement, de faire apparaître ces écarts, leurs ressources, et donc ce que cela peut susciter, c'est pas, de nouveau à penser. Donc je penserai en termes d'écart, et je commencerai par les premiers écarts que j'évoquerai rapidement, qui sont d'abord que il y a bien quelque chose au départ de la tradition chinoise, disons au second millénaire avant notre ère, qui ressemble à Dieu, c'est-à-dire une figure qui part au-delà des divinités, comme on dit nous, n'est-ce pas, naturelles, les sources, les points cardinaux, les vents, une figure qui, comme ça, plus tutélaire, qu'on appelle le Seigneur d'en haut, qu'on craint, qui domine le monde humain, bref, des attributs, disons, communs de la pensée de Dieu. Mais l'important, justement, c'est l'écart qui s'ouvre. Et le fait que cette figure tient d'en haut, au lieu de prendre toute l'importance que Dieu a pris dans la tradition européenne, va se trouver jamais critiquée, jamais abandonnée, mais progressivement marginalisée, mise de côté, consacrée, mais en même temps éludée. Bref, deviendra progressivement marginale dans la pensée chinoise. D'abord parce qu'il y a, j'y reviendrai, très peu d'inventions mythologiques, ce qu'on appelle ainsi dans notre tradition, de mythos. Et d'autre part parce que le rapport qu'on peut avoir avec l'au-delà du côté chinois passe d'abord par les ancêtres, la médiation des ancêtres. Il y a cette médiation via la famille et via donc, disons, les générations précédentes. Ce qui fait que la figure du Seigneur d'en haut, Shangdi, se trouve progressivement désinvestie, au profit d'une figure qui va devenir prépondérante, celle du ciel, tienne. Bon, renversement de dynastie, tout ça, il y a un arrière-plan que je laisse de côté, mais qui va amener cette chose essentielle en Chine, qui est la moralisation de l'histoire. Parce que les vainqueurs, ceux qui s'instaurent en Chine à la fin du au XIe siècle avant notre ère, les Zhou, au lieu de célébrer leur victoire et de s'en glorifier, au contraire, vont réfléchir sur la raison de l'éviction de la dynastie précédente, les Shang, et donc la perte de leur mandat, et des raisons qui ont justifié cette perte. La référence, justement, au Seigneur d'en haut, qui a jugé qu'il devrait démériter, et là, on voit dans ces premiers textes chinois comment la notion de ciel vient jouxter la notion de Seigneur d'en haut, perdant le mandat du ciel, le Tianming. Donc, vous voyez, ce qui me paraît important, c'est que c'est pas noir et blanc, cette histoire. On voit que la tradition chinoise archaïque a entrevu quelque chose qui aurait pu se développer en pensée de Dieu, mais au lieu de le déployer, justement, l'a laissé en plus ou moins en friche, en tout cas, ne s'y est pas vraiment intéressé, puisqu'autre chose lui a importé, ce qui s'est progressivement mis sous la figure du ciel. Ce qui va donc progressivement l'emporter dans la pensée chinoise, c'est l'idée de ce que j'appellerais la régulation du monde. Non pas règles, mais régulation, avec tout ce qui est important en Chine, qui est de l'ordre du déroulement, du processus. Et c'est ce qui fait que la figure du ciel, progressivement, alors ça va de près, j'essaie de le lire dans les premiers textes, le livre des documents, le classique des poèmes, comment cette pensée de la régulation commence à s'instaurer, et cela dans cette idée de la perte du mandat, donc du fait que dès lors qu'on démérite, ben le ciel vous laisse tomber, et que les nouveaux conquérants, ceux qui triomphent, eh bien c'est que le ciel les a aidés, les a accompagnés dans ce succès. En tout cas, ce qui apparaît progressivement, c'est que se désinvestit ce qui s'est tant développé du côté européen, à savoir l'inquiétude religieuse, voire vertigineuse, côté européen, au profit de l'opposition chinoise première, primordiale, qui est le bon ordre et le désordre. Ce qui fait que se trouve pas revendiqué de révélation, que ne serais-je pas non plus une figure de la vérité ? Donc, ne se noue pas de drame autour de la figure de Dieu, que ne se déploie pas de sens qui serait vertigineux. Il n'y a pas de Dieu qui crée le monde. Il n'y a pas de paradis terrestre, d'Éden, pour commencer, parce qu'il n'y a pas de péché originel, de chute, d'exil, bref. La question du mal elle-même ne se configure pas. Il y a quelques penseurs, notamment Sunzeu à la fin de l'Antiquité, qui réfléchissent à ce qu'on appelle le mal, mais Mencius l'appelle communément le non-bien. Elle ne fait pas principe, en tout cas elle ne fait pas énigme, comme du côté européen. Donc pas de scène originaire, engageant d'emblée un questionnement qui évidemment est un questionnement sans fin. Ce qu'on voit plutôt, c'est, et c'est là que l'écart se confirme, c'est que la notion de crainte va s'orienter du côté chinois vers celle de vigilance. Non pas l'angoisse, telle que la tradition chrétienne, biblique puis chrétienne, va développer. Pensez encore à Kierkegaard, crainte et tremblement. Non, c'est pas du côté du tremblement, la crainte, mais du côté de l'attention respectueuse à la situation et la façon dont on doit mériter, disons, par le souci qu'on a pour le prince, le souci du peuple, de ne pas perdre ce mandat qui a été confié. Donc c'est cette notion qui, elle, est, voyez, ambiguë, celle de crainte, qui se creuse non pas du côté du vertige, ce que les Grecs appelaient illigia, n'est-ce pas, mais du côté de l'attention scrupuleuse apportée à ne pas apporter à la capacité qu'on a d'assumer sa responsabilité, quel que soit le niveau, mais d'abord celle du père, celle du prince, et donc à ne pas démériter par rapport dans ce cadre de moralisation de l'histoire qui s'instaure en Chine. Alors, si je poursuis cet écart, je pourrais le représenter dans cette double figure, du côté européen et du côté hébraïque, chrétien, l'importance de la prière. Face à quoi, on est obligé de constater du côté chinois, l'importance de toute autre chose qu'on n'était pas nommé du côté européen, qu'on traduit par rite. Mais rite est un terme qui ne convient pas. Mais comme on n'a pas d'équivalent, on le traduit par un terme qui est en défaut, celui que nous traduisons donc par rite en européen. Alors, il y avait une dizaine, quinzaine d'années, je ne sais plus, un livre paru, je crois que c'est chez Bayard, bon éditeur au demeurant, qui était un atlas mondial de la prière. J'étais surpris en consultant qu'il n'était pas question de la Chine. Alors, c'était mondial, mais sans la Chine. Et c'est quand même un peu difficile, en tout cas sur la carte du monde, la Chine, c'est quand même ça fait trou. Hein. Alors qu'on a de la prière, on a partout, bien sûr. Alors, faisons donc ce qu'on appelle prière. Mais disons, cette absence est quand même fait signe. Fait signe vers quelque chose qui est que nous avons, nous en tout cas en Europe, pensé le religieux à partir de cette importance de la prière. Dont on voit qu'elle n'a pas de développement comme tel du côté chinois, et pour des raisons qu'il faut prendre dans l'histoire, qu'il faut prendre dans la société. D'abord en Chine, ce fait considérable qu'est l'importance du familial. J'ai parlé de la médiation des ancêtres, oui. Et disons, encore aujourd'hui, comment traduit-on religion en chinois ? Tongjia, enseignement des ancêtres. Des ancêtres, ancestrales, enfin, on traduit ça comme on veut. Mais le fait essentiel, c'est qu'effectivement, il y a du culte, et d'abord le culte royal, mais qui est rendu par le chef de la lignée, n'est-ce pas ? Donc c'est bien familial dans sa structure, autour de cet axe ancestral, alors avec quelque chose d'extrêmement subtil, on a eu l'occasion de honorer la figure de Léon Vandermeersch, je crois sur laquelle on s'accorde à dire qu'elle a été essentielle dans la sociologie française contemporaine, et dont nous regrettons la disparition. Mais bon, Léon Vandermeersch a fait des études très précises de tous ces systèmes, n'est-ce pas, de parenté, en rapport avec ce qu'avait fait Granet auparavant, pour voir à quel point c'est une affaire complexe, subtile, cette hiérarchisation, enfin, cette affaire du culte ancestral, à la fois par hiérarchie dans la société et puis par l'aspect générationnel, n'est-ce pas, chaque génération poussant un peu la précédente de côté, n'est-ce pas? Mais on voit bien que ce qui se passe quand c'est cette sorte de résorption de la figure de Dieu en Chine était liée avec la structuration du social, n'est-ce pas? Donc c'est là qu'il faut prendre les choses au départ. Et le fait qui en découle, qui est un fait considérable, du fait que ce soit celui qui porte la lignée qui procède au sacrifice, c'est qu'il n'y a pas de classe sacerdotale en tant que telle. Comme toujours en Chine, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui sont chargés d'eux. Mais il n'y a pas cette fonction du prêtre telle qu'elle a, disons, été formatrice du côté européen. Le sacrifice étant assumé par le chef de clan, même s'il est entouré, bien sûr, d'acolytes, de spécialistes, des procédures en question. Ce qui entraîne des conséquences essentielles dont on voit encore la conséquence aujourd'hui, ou le poids aujourd'hui. Pas de pensée de l'immortalité en tant que telle, mais la perpétuité. Parce que pour l'immortalité, on le voit bien quand on lit Platon, le Phédon, il faut qu'il y ait un support de l'immortalité qui soit l'âme. L'âme substantielle, l'âme séparée du corps, enfin la question du Phédon. Alors que du côté chinois, il n'y a pas un statut d'âme comme ça consistant en termes ontologiques, en termes d'être. Donc, il y a ce qu'on appelle en chinois vivre des dizaines de milliers d'années, n'est-ce pas? Ça se perd comme ça en point de suspension dans la durée. Et donc, pensez non pas de l'immortalité, mais de la perpétuité par des cultes perpétuels, n'est-ce pas? Qui ne cessent de perpétuer un principe de vitalité, en tout cas tant que les sacrifices sont effectués. Et puis une chose qui a été très bien analysée, que je ne fais que reprendre, c'est la primauté du procédural du sacrifice sur le verbal. C'est-à-dire que c'est, bon, là encore, Vandermeer, je l'ai fort bien étudié, c'est-à-dire très discuté, mais dont je vais pas entrer dans sa complexité, mais disons que le sacrifice se trouve progressivement investi du côté de la procédure, donc des modes opératoires, et de tout ce qui sera donc l'aspect formel, au détriment de ce qui a été si important pour nous du côté de la parole. Important du côté chinois, vous savez, du tracé. Tracé des fissurations sur les os prélevés du sacrifice, et puis les carapaces de tortue, etc. Et avec ce fait essentiel que, au pouvoir déclaratif de la parole, tel que nous l'avons tellement développé du côté européen, prévaut ce qui serait du côté chinois la valeur de l'indice, de l'indiciel, de ce qui donc révèle une cohérence d'ensemble à partir d'une fissuration particulière. Donc, déploiement de ce qu'on va appeler rite, regarde ce que nous avons déployé en tant que prière. Quelqu'un qui a très bien dit, une fois de plus, c'est Montesquieu, on m'a reproché d'avoir pris la suite de certaines traditions européennes, qui est celle des... Alors, je le dis ici d'autant plus que je suis dans votre maison, chez vous, les jésuites, de cette tradition don des missions. Mais c'est parce que je pense que l'effort des missions est un très grand effort d'intelligence. D'intelligence. Parce que partir comme ça, sur l'amphitrite, partir pour sa vie, n'est-ce pas, à la Chine, et essayer de comprendre ce qu'on découvrait là, n'est-ce pas, puisqu'il faut prendre l'expérience de l'Europe dans ce cas-là de plus saillant, l'Europe devenant l'Europe, l'Europe de la Renaissance, comme on dit, l'Europe qui sort d'Europe, de ses frontières, elle va vers le nouveau monde. Et là, elle trouve un monde vide, ou qu'elle vide, c'est-à-dire qu'il ne lui reste pas, qu'elle extermine ou qu'elle convertit, bref, très peu d'histoire. Mais quasiment, juste après, elle va de l'autre côté, débarque en Chine, à Canton. Et là, cette phrase, n'est-ce pas, qu'on trouve dans la correspondance des missionnaires, Canton est plus grand que Paris. Alors là, c'est pas un monde vide, n'est-ce pas, c'est un monde plein. Et un monde plein qui fascine parce que il nous attend pas. C'est ce qui surprend tant les missionnaires. Et donc, cette intelligence qu'ils ont montrée pour essayer d'entrer dans ce monde de la Chine, apprendre la langue, commencer à élaborer des dictionnaires, mais d'abord, à se siniser, prendre des vêtements chinois, honorer l'empereur, étudier les classiques, bref, faire cet effort d'intelligence, c'est pas parce que je suis ici que je le dis, parce que c'est écrit dans mon livre, je trouve remarquable comme effort d'ouverture à l'autre. Donc, je ne crains pas de m'inscrire dans cette tradition. Et je citais ces grandes intelligences, Montaigne, quand il parle de la Chine, une phrase, mais cette phrase est décisive, Pascal, Montesquieu, qui nous prend ce terme de rite et l'interroge de façon, je trouve, très pertinente, quand il dit ceci. Oui, parce que comment faire entrer la Chine dans l'horizon européen ? Au départ, c'est hors cadre. Donc c'est bien, alors pour Montesquieu, c'est après Sparte. Parce que Sparte, c'est déjà un peu hors cadre par rapport à la tradition qui est celle d'Athènes, qui est celle de la philosophie, qui est celle de... Car Sparte, c'est en dehors, Lycurgue, bon, c'est une sorte de d'étrangeté déjà dans le monde grec. Donc étrangeté qu'on va introduire au carré par la Chine, après Lycurgue, ben c'est les Chinois. Et Montesquieu nous dit ceci, les législateurs de la Chine... Est-ce que ce sont des législateurs, vous voyez, qui est dépendant du terme de loi que je mettrai en question, confondir la religion, les lois, les mœurs, les manières. C'est ce qu'on appelle les rites. Alors, Montesquieu dit que les Chinois ont confondu, on pourrait dire que nous, on a distingué. On a tout séparé. Peut-être à tort d'avoir tout séparé ainsi. Vous voyez comment la formule est globale, n'est-ce pas ? La religion, les lois, les mœurs, les manières. Et je vous l'ai dit, la page suivante, il n'est presque pas possible que le christianisme s'établisse jamais à la Chine. Donc ce terme de rite, mauvaise traduction, on n'a pas d'équivalent, il faut l'interroger. Et terme de lit, mais qui se trouve entre deux autres termes de lit, ou plein d'autres termes de lit, mais j'en retiens deux en tout cas, retenus par la tradition. D'une part, lit, c'est aussi, autrement, dans une orthographie, c'est la chaussure qui tient le pied et qui fait qu'on évite de se faire une entorse, n'est-ce pas ? Le pied est bien tenu, la chaussure. Puis l'autre lit, c'est, avec la clé du jade, c'est ce qu'on traduit par raison. C'est-à-dire quand on polie le jade, n'est-ce pas, on fait apparaître ses vénures, et il faut donc tailler le jade en se conformant à la vénure, et c'est de cela que la tradition chinoise a pensé la raison. Bon, étymologie fausse, c'est pas grave. L'important, c'est que la tradition s'y soit accrochée. Et donc, ce qu'on appelle rite incarne au fond ce que j'ai appelé précédemment la régulation du monde. Car le rite développe une pensée de la conformité, se conformer à la cohérence du cours des choses. Non pas sens. Alors je poserai sens et cohérence. Sens, c'est la grande pensée européenne, n'est-ce pas, avec cela de vertigineux, question du sens. La Chine ne me paraît pas très intéressée par la question du sens. D'ailleurs, peu d'herméneutique en Chine. Des commentaires à un peu finir, des gloses. Mais le sens en tant que tel, comme on dit les quatre sens de l'écriture, dans la tradition chrétienne, ne l'intéresse guère. Ce qui l'intéresse, c'est la cohérence. Cohérence, c'est-à-dire cohérer en latin. Comment ça tient ensemble ? Comment ça marche ? Comment ça tient ? C'est pas la cohérence. Non pas sens, mais cohérence. Et donc, ce qu'on appelle de ce terme rite, n'est-ce pas, lié en chinois, c'est se conformer à la cohérence des choses, du processus, du cours du monde. Je vais chercher ma montre parce que je ne voudrais pas que vous endormir par mon exposé. Parce que quand on s'embarque dans cette question, n'est-ce pas, c'est long. Donc, essayer d'élaborer un peu un vis-à-vis de la pensée juive, de la pensée européenne, en plus, en passant par la langue, parce que c'est dans la langue que ça se noue d'abord, tout ça est un peu long, mais je vais aller encore un peu plus vite. En tout cas, ce qui me paraît important, c'est que la question, ce qu'on appelle rite dans la tradition européenne, si je le prends maintenant à la fin de l'Antiquité, notamment dans ce texte essentiel qui est le propos sur le discours sur le rite de Sun Tzu, ces deux nous montrent bien que c'est au fond la notion la plus profonde, la notion indépassable. Je traduirais donc rite par norme comportementale. Norme, norma, n'est-ce pas? Norme comportementale est d'autant plus efficace qu'elle opère à notre insu. Tout cet apprentissage, cette façon d'intégrer les pratiques rituelles en soi, de façon à ce que la conduite soit toujours normée, toujours conforme à ce qui est le bon ordre des choses. Donc la pensée à la fin de l'Antiquité, je dis juste texte, parce que c'est une référence essentielle, montre que cette pensée du rite, elle est indépassable, la plus profonde, autosuffisante, et qu'elle bloque toute interrogation. Il y a une pensée là, je trouve très intéressante pour la philosophie, c'est que si vous entrez dans cette pensée des normes comportementales, qui valent donc au niveau du ciel, de la terre, de l'homme, tout ça se conforme, une même cohérence gère tout ça, eh bien il n'y a plus la question du sens, il n'y a plus d'énigmes, il n'y a plus de questionnements pour la question. N'est-ce pas ? Bon, je vais pas insister sur l'aspect en vis-à-vis de la prière, qui, au contraire, elle ne cesse de se réfléchir et de s'approfondir du côté européen, au point que c'est la prière qui fait Dieu, n'est-ce pas? Prier Dieu, s'adresser à Dieu, c'est ça qui fait exister Dieu, n'est-ce pas? Je cite Novalis, n'est-ce pas? Prier, c'est produire de la religion. Religion machen. C'est brut comme formule, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est produire de la religion. Et quelqu'un que je voudrais aussi honorer dans sa mémoire, Jean-Louis Chrétien, qui est un des grands philosophes contemporains, à mon sens. Mais vous savez qu'en France, de plus en plus, il y a les pseudo-philosophes ou les faux philosophes dont on parle tous les jours, que vous voyez à la radio, à la télévision, bref, dans les panels qu'on a sous les yeux tout le temps. Puis les vrais philosophes, on n'en parle pas parce que ils travaillent. Ils élaborent. Et donc, Jean-Louis Chrétien fait vraiment partie de ces vrais philosophes. Et je voudrais citer, il a fait rendu une très belle réflexion sur la prière. Je tiens donc à le citer ici. En disant ceci, qu'on ne saurait imaginer un sacrifice que la prière, d'une façon ou de l'autre, n'accompagne ou ne constitue comme telle. La réflexion est importante. Je crois que ce n'est plus vrai du côté chinois. Plutôt que le côté chinois nous fait apparaître que non. Qu'on peut avoir des pensées, le sacrifice, Dieu sait que les Chinois l'ont pensé, à l'écart de la prière. Donc ce couplage prière et sacrifice, que Jean-Luc Chrétien décrit comme allant, étant essentiel, eh bien rencontre sa limite du côté chinois. Bon, si je radicalise encore plus l'écart, je veux dire que ce qui caractérise le côté chinois, c'est qu'il n'y a ni parole, ni récit. Or, Dieu est parole. C'est même ça qui fait le départ de la pensée de Dieu. La prière n'est qu'une partie, ou la partie humaine de cette parole, mais qui est d'abord la parole de Dieu, et qui est que, c'est ce qu'on découvre quand on ouvre la Bible, n'est-ce pas, à son début, Dieu dit, n'est-ce pas, fameux dabar, qui fait exister. Alors, qu'est-ce que c'est que de penser en Chine que le ciel ne parle pas? Ce que dit Confucius. Ou plutôt que le ciel est d'emblée manifeste. Tien, sien. Le ciel est d'emblée manifeste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parole, puisque le ciel manifeste de lui-même sa cohérence. L'alternance du jour et de la nuit, l'alternance des saisons, la régulation que le ciel incarne dans son déroulement. Ce mandat du ciel que j'évoquais en commençant n'a pas proprement de sens, n'est pas proprement un message. Il se révèle d'emblée dans le fait que ceux qui ont démérité perdent le pouvoir et que ceux qui ont mérité l'obtiennent. Ce mandat du ciel venant à se confondre avec la régulation du monde. Donc, il y a une formule, j'allais dire importante de Confucius, mais toutes les formules de Confucius sont importantes. Donc, formule de Confucius qui dit ceci, un jour où il doit être fatigué, j'aimerais ne pas parler. Ses disciples lui disent, mais alors si vous ne parlez pas, qu'est-ce qu'on va raconter? Que faisaient les disciples, qu'est-ce qu'il faut? Ils racontent ce que le maître a dit. C'est pas leur fonction, leur justification. Et Confucius poursuit en disant, le ciel parle-t-il? Les saisons suivent leur cours, les existants, enfin, prospèrent. Quel besoin le ciel aurait-il de parler? Tien, Reyenzai. La parole viendrait s'ajouter et ferait donc écran à cette auto-manifestation de la cohérence, qu'on dit cohérence du mandat du ciel, cohérence donc de l'ordre du monde. Mais c'est pas seulement Confucius. Vous trouvez aussi bien dans Zhuangzi quand il est dit « Le ciel et la terre ont leur beauté, leur ample beauté, mais n'en parlent pas. » Dans le rituel, l'alternance des saisons, dans l'alternance des saisons, il n'y a rien qui ne soit pas déjà enseignement. L'alternance des saisons, pour sa cohérence elle-même déjà, n'est-ce pas, enseigne. Pas besoin d'un supplément de la parole qui viendrait en fait seulement s'interposer. Donc, pas de déploiement de la parole, or la pensée du religion chrétien et hébraïque et chrétien est accrochée à la parole, pas non plus de grands récits. Vous savez, on a souvent décrit notre époque post-moderne comme étant la fin des grands récits. Mais la Chine est passée à côté des grands récits, comme elle est passée à côté de l'être, n'est-ce pas? Passer à côté, c'est quoi passer à côté? C'est-à-dire qu'il y a une ressource, voilà, qu'on n'a pas déployée parce qu'on en déploie d'autres, et c'est ce vis-à-vis qui me paraît important à penser. Donc, de même qu'il y a défiance à l'égard de la parole, il y a exténuation du récit, du grand récit. Pas de récit de la création, érigeant Dieu en démiurge, ou en grand actant. Pas de goût, vous me direz, mais pas de goût. On n'en a des traces que dans un recueil du 3e siècle après notre ère. Nuwa, quelques formules, dans des encyclopédies. Rien du mythos constitutif qu'on trouve du côté grec. Vous voyez, le début des grandes dynasties, début des Zhou, n'est-ce pas? Comment on en parle dans le Shuting, le classique des poèmes? On parle bien d'une naissance qui serait, dirions-nous, miraculeuse. Il faut bien que quelque part un élément comme ça, dépassant l'ordre humain, pour le fonder, commence à apparaître. Donc la mère qui enfante le premier ancêtre de la lignée des Zhou, Tian Yuan. Mais quand on lit le texte lui-même, on voit que ce premier ancêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que reconduire l'œuvre de la civilisation. C'est pas un grand actant, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de finalité, et il n'y a pas non plus de négativité à l'œuvre. Et pas non plus de marqueur temporel. Pensée lente qui ne conjugue pas. Donc il ne lit pas nécessairement du verbal et du temporel. Ce fondateur, Hoeti, n'annonce rien, il ne force rien, il n'impose rien. C'est pas un héros, c'est pas un saint, pas d'exploit, pas de don de soi. Il est porteur de cette processualité qu'il incarne, n'est-ce pas, en instaurant cette nouvelle dynastie et en déployant l'agriculture. Donc pas de récit. S'il n'y a pas de récit, c'est qu'il n'y a pas de négativité à l'œuvre. Bon, et ce qu'il y a de mal, c'est quoi? C'est de la dérégulation. Vous savez, quand le cours s'obstrue, comme on le dira sous les sons, n'est-ce pas? Il y a obstruction du cours. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de le serpent, la pomme, enfin, tout ce qui fait notre scène originaire. Et la cohérence initiale ne se laisse pas entamer. Elle peut se laisser entraver, mais déviée. Mais elle ne se laisse pas entamer. Elle n'est pas interrogée, n'est pas comme ça portée, développée, une question du mal. Pas d'énigme à sonder. Bon, je ne fais qu'indiquer certains points d'ancrage, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me conduit à deux oppositions, et après, promis, ça sera fini. D'abord, cette façon dont le ciel en vient à signifier la nature. C'est à l'aboutissement de l'antiquité chinoise. Et puis, ce qui va lever le terme privilégié de la voix, le fameux Tao. J'ai dit, marginalisation de la figure du Seigneur d'en haut au profit du ciel, c'est-à-dire du cours de la régulation. Pas de rupture, qui serait dramatique dans la pensée. Mais on voit que ce qui s'entrevoit de Dieu personnel du côté chinois, se trouve progressivement recouvert par l'idée de ce cours des choses cohérent, et donc à la cohérence de quoi il faut se conformer. Donc la notion de Seigneur d'homme se trouve précisément désinvestie, déshabitée, mais respectée comme telle. On ne fait pas son procès. Donc le déclin de Dieu en Chine se fait sans bruit, retrait discret, qui n'est pas polémique, qui n'ouvre pas des positions contraires. On ne critique pas. Il n'y a donc pas le grand conflit de Dieu et de l'athéisme. Bon, une figure que j'ai analysée, c'est celle, la première figure, la pensée chinoise, celle du ciel, dans l'hexagramme, le premier hexagramme du classique du changement, le I Ching, traduit littéralement, classique du changement, qui commence par quatre mots, qui sont les quatre mots qui disent toute la pensée chinoise. Commencement, essor, profit, rectitude. Quatre mots. Je ne sais pas si c'est des verbes, si c'est des noms. Yuan, Rang, Li, Zhen. Même pas de phrase. Quatre termes comme ça, successifs. Qui disent justement les étapes du procès. À preuve, c'est qu'on a pu prendre le premier comme étant le printemps, le second l'été, le troisième l'automne et le quatrième l'hiver. Donc ce déroulement cohérent du monde. Pas de sujet, logique processive. Pas de grand actant. Aucune cause. C'est bien que chez les Grecs, on a pensé, enfin, moins du côté théologique, Dieu comme étant la cause, la première cause, comme dit Platon. Première cause. Quand on remonte, il faut bien s'arrêter à un moment de remonter. Je dis Platon, mais Leibniz, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il faut un point de départ, à la causalité, à l'aïtia. Non, il n'y a pas de pensée de la cause, là. Pensée de la cohérence. Donc, aucune cause. Et la grande image de cette première figure du classique du changement, et si très Yang, c'est le dragon. Le dragon, sur un corps de dragon, vous voyez pas vraiment la tête, pas vraiment la queue, mais il y a un corps qui, comme ça, se renouvelle, n'est-ce pas, par ondulation, et qui sont donc ces alternances du procès des choses. Et puis parce que Dieu, ce qui fait Dieu, c'est, la tradition européenne, nous l'avons exacerbé, c'est qu'il est seul. Monothéisme. Seul. Figure unique. Alors que ce qui fait le propre de la pensée chinoise, vous le savez, la langue chinoise d'abord, c'est la corrélation. Donc, tout se corrèle. Et donc, au ciel répond la terre, n'est-ce pas? Tianzi, pour dire le monde. Donc le ciel n'est pas isolé, dans son altitude, mais lui répond la terre, et la terre ne vient pas après. Les deux premières figures du classique du changement, c'est le ciel, oui, la terre ensuite, mais on vous dit bien, la terre n'est pas après le ciel. Parce que pour que le ciel exerce sa faculté d'initiatrice, il faut qu'il y ait déjà la terre pour l'accueillir. Donc, grande dualité, plutôt corrélation, du yin et du yang, du ciel et de la terre, bref, il n'y a pas isolation de la figure de Dieu. Alors, il faut lire les choses de près. C'est pour ça que je dis, c'est pas voir en noir et blanc, parce que si vous lisez les entretiens de Confucius, vous voyez bien qu'à certains moments, Confucius s'adresse au ciel, se réfère à lui, en tout cas. Et dit que si sa vie, qui est faite une vie d'échec, comme toute la vie, les vies de lettrés chinois, n'est-ce pas? Ils veulent convaincre le prince évidemment ne cesse pas de convaincre. Et donc, il y avait ce sentiment, et chez Confucius, n'est-ce pas, que tous les efforts qu'il fait seraient vains. Le ciel me connaît-il? Le ciel me connaît-il? Donc voyez là, il y a une possibilité, s'entrevoit cette invocation du ciel comme figure personnelle, de soutien. Il y a bien quelque part une inquiétude qui travaille, mais elle ne se déploie pas. Et l'aboutissement, je l'ai évoqué chez Sun Tzu, que j'ai déjà cité à propos de ce qu'on appelle rite, c'est qu'au fond, le ciel, ben, c'est la nature, n'est-ce pas? C'est donc le cours indépendant de la volonté humaine, comme il dit, qu'on récite des incantations pour la pluie et qu'il pleuve. Quelle raison y a-t-il à cela? Ah, vous voyez, la réflexion est philosophique, là. Je réponds, il n'y en a aucune. C'est directement comme s'il en avait par récit de prière, il pleuve. Donc, un courant de la nature indépendant de toute prière, de toute, disons, supplication. Et c'est qu'on conduit Sun Tzu à cette formule que je trouve magnifique, un peu prémonitoire pour notre temps, quand il dit « Ce que les gens du commun prennent pour du chêne, du religieux, les lettrés le prennent pour du wen, du culturel. » Le peuple prend pour du chêne, du religieux, mais du lumineux, si vous voulez. En fait, c'est du culturel, comme nous, quand nous faisons des concerts dans les églises, n'est-ce pas, ou que nous les visitons, ou que nous mettons, classons les églises comme monument historique. Bon. Dernier point, donc, bon, enfin, c'est le point majeur, c'est Tao. La voix, comme on dit. Alors, autant la figure de Dieu s'est isolée, autant le Tao est le terme le plus banal de la langue chinoise, n'est-ce pas ? La voie, la viabilité, par où on passe. Comme on dit, dans le Zhuangzi, c'est en marchant qu'a été tracée la voie. Xingacheng. Donc, c'est un terme qui, alors, formule du classique du changement, une fois yin, une fois yang, telle est la voie. Mastero disait que toute la pensée chinoise tenait dans cette formule. Yin yang jui dao. Alternance du yin et du yang. Alternance cohérente, régulée. C'est ce qui fait la voix. C'est ce qu'on nomme la voix. Alors, quand on s'intéresse à la pensée du Tao du côté du Laozi, du Zhuangzi, d'un texte où on dit taoïste, mauvaise formule, mais tu en sais 100 fois plus que moi là-dessus, on voit un moment ou des moments où la notion de Tao pourrait se théologiser. En tout cas, elle a une figure, disons, de cosmogonique. On le voit quand il s'est dit dans le, notamment dans le Laozi, n'est-ce pas ? Cette chose n'est avant toutes les autres. Hein. Mais l'intérêt, c'est justement de voir comment cette possibilité théologique ou cosmogonique que porte le terme de Tao ne se déploie pas. Ça s'entrevoit. Je tiens à ce verbe « entrevoir ». Cette possibilité est entrevue, mais elle n'est pas développée. Et c'est là que c'est intéressant à analyser, si vous voulez. C'est-à-dire comment les cultures sont des ressources, les langues, les cultures sont des ressources, alors qu'ils se déploient certaines cohérences au détriment d'autres. Et c'est cet écart qu'on peut analyser. Bon. Donc, Tao oscille effectivement entre une possibilité de théologisation et de naturalisation. Je dis ça comme dit Aristote, n'est-ce pas ? Aristote nous dit à philosophie, il y a ceux qui sont dans le théologein, logos de Dieu, et puis ceux qui sont dans le physiologein, pensée de la nature. Tao se trouve entre les deux, n'est-ce pas ? Ouvert aux deux. Mais ce qui est remarquable, c'est que, et c'est là que je parle d'entrevoir, c'est qu'on voit des points, notamment dans le Zhuangzi, ce texte abyssal, des moments où apparaît, émerge l'inquiétude existentielle. Qu'est-ce que je fais ici sur Terre ? On le lit dans le Zhuangzi. Et donc, si je me dis qu'est-ce que je fais ici, la question c'est de dire, mais qu'est-ce qui m'y a mis ? Et pourquoi ça ? Donc, cela intervient, comme je dis, entrevoir dans le texte de Zhuangzi. Je vous dis simplement ceci. Le ciel se meut-il ? La terre est-elle immobile ? Le soleil et la lune se disputent-ils leur place ? Qui préside à cela ? Là, vous avez du qui ? C'est pas qui interroge. Et la question ? Qui donne ordre et armature à cela ? Voilà qu'on serait au point de départ d'une inquiétude religieuse qui pourrait se déployer. Mais cela est résorbé. Ne va pas au-delà. Résorbé parce que le texte se convertit, le mot n'est pas très bien choisi, disons se retourne ou se renverse dans une perception politique. Donc au lieu que le thème soit développé en tant que tel, comme cette inquiétude, je dirais, existentielle se déploie, se trouve résorbée sous l'éternel argument chinois de l'ordre du désordre, n'est-ce pas ? Je dis éternel argument chinois parce que c'est encore la Chine d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Si on a un dictateur qui dirige la Chine aujourd'hui, c'est même parce qu'il est censé faire respecter l'ordre. Donc il y a bien une plainte existentielle, mais cette plainte se résorbe. Et, disons, se résorbe dans la pensée du pouvoir, ou la pensée de la naturalité, de l'ainsi des choses, du Zhejiang, ce que tu as besoin peut-être l'immanence, mais ça sera à toi de le dire, ce qu'on peut, la pensée de l'ainsi, ainsi, Jeanne, n'est-ce pas, du c'est ainsi, ce par quoi c'est ainsi, soit Jeanne. Et donc, développant une pensée de ce que j'appellerais la viabilité infinie. Mais donc, c'est une voie, le Tao, qui n'est pas une voie qui mène à, quelque part, un salut, une terre promise, mais la voie par où ça passe, la voie de la viabilité continue, de la viabilité infinie qui ne s'épuise pas. Bon, dernier mot, presque, C'est qu'il y a un verbe qui a tenu toute l'affaire religieuse en Europe, c'est croire. Croire. Verbe tellement étrange, croire. Et ce qu'on constate du côté chinois, c'est que ce verbe ne se déploie pas, ce verbe croire. J'en dis donc deux mots, parce que croire est un verbe le plus étonnant qui soit. À la fois, c'est le verbe le plus banal, je crois qu'il va faire beau, et puis je crois, dit absolument. Donc à la fois, c'est le verbe qui dit moins qu'un savoir, je crois qu'il fait beau, et qui dit l'au-delà de tout savoir, je crois. Donc c'est un verbe qui est vertigineux dans la pensée européenne. Et il y a toute une... et qui est constitutif à bien des égards de la pensée européenne. Alors là, il faut évidemment prendre les choses dans l'histoire. Et chez les Grecs, il n'y a pas le verbe croire, enfin avant le christianisme, au sens du croire que j'évoque. Mais l'idée que je pense que les dieux existent. C'est ce que dit Socrate avant de mourir. Puisqu'on lui fait ce mauvais procès, qu'il ne nomidzein tous teus ainai. Je pense, je considère que les dieux existent. Et on l'accuse d'impiété, et il répond, non, je considère que. C'est pas la foi d'un nœud du personnel. C'est parce que s'il reprend en grec par pistis, pistein, ce qui va développer le sens chrétien. Mais c'est l'idée que, oui, les dieux sont, n'est-ce pas? Et vous savez à quel point cette question est à la fois la plus personnelle du contexte européen et la plus politique. Personnel, je pense que les dieux sont politiques. Ce que nous dit Platon, c'est que la cité est liée à la piété. Et que si on ne pense pas que les dieux existent, eh bien on est un mauvais citoyen. D'où tout ce qui sera pour nous la pensée politique de la croyance, y compris les guerres de religion, bref, tout ce qui fait notre histoire. Alors, ce qu'on voit en regard, du côté chinois ou en vis-à-vis, c'est comment ce verbe croire n'a pas à se déployer. Et le verbe qu'on traduit par croire, en chinois moderne, ou à partir du bouddhisme, sin, l'homme est l'appliqué à la parole, eh bien, dans la tradition chinoise de l'Antiquité, c'est faire confiance, se fier à. Non pas, d'ailleurs, dire ce qu'on pense. Très souvent, ce terme est traduit dans la sinologie par sincérité. C'est pas sincérité au sens que nous avons conçu nous, savoir dire ce que je pense. Et déjà chez les Grecs, n'est-ce pas, Zeus qui voit au fond des cœurs, n'est-ce pas, ou là qui regardait Caïn au fond de la tombe, n'est-ce pas. Non, c'est tenir parole. Non pas dire ce que je pense. Est-ce que je sais vraiment ce que je pense d'ailleurs? Mais tenir ce que je dis. Signe, fiable. Non pas donc la sincérité, mais la fiabilité. Conformer à. Alors, ce qui a développé en Chine le verbe croire, c'est le bouddhisme. Mais le bouddhisme vient d'Inde, il vient du dehors, n'est-ce pas? Il vient du dehors. Et là, évidemment, dès lors que quelque chose s'organise comme une foi, eh bien, on retrouve tous les caractères de la foi, à savoir l'exclusion, l'anathème, la menace, enfin le catéchisme, n'est-ce pas? C'est, ça va de soi, c'est. Mais justement, c'est le bouddhisme qui fait entrer ça. J'en ai dit un peu dans mon bouquin. Mais au-delà de ça, eh bien, dans la pensée des lettrés, ce qu'on voit, c'est cette idée de le pire du point de vue chrétien, je crois, c'est croire un peu. Donc, la croyance tiède, en quelque sorte, n'est-ce pas? Ce que, évidemment, Oni, à juste titre, la pensée religieuse un peu fervente, n'est-ce pas? Que ce soit chez Pascal, chez Kierkegaard ou d'autres. N'est-ce pas? Je cite cette formule simplement. Si les hommes accordent beaucoup de croyance aux esprits, parce qu'au fond, chaîne, c'est d'abord ça, ils divaguent. Mais s'ils n'en accordent pas du tout, ils ne peuvent pas les honorer. Donc voilà, croire un peu. Le pire, n'est-ce pas, pour la pensée de la croyance, c'est se croire un peu, disons, au bord de l'indifférence. Bon, j'ai fini mon livre, mais je vous en dispenserai par un chapitre qui s'appelle « Mort de Dieu » avec un point d'interrogation. Tout est dans le point d'interrogation, bien sûr. Parce que Dieu est mort, c'est la formule de la modernité. Mais bien sûr, Dieu n'a cessé de mourir. Mourir sur la croix, mais comme l'a bien vu Nietzsche, n'est-ce pas, les dieux grecs mouraient déjà, n'est-ce pas? Dieu n'a cessé de mourir. Simplement, on a pensé que, aux lectures par Heidegger du mot de Nietzsche, Dieu est mort, c'est que c'était la destinée, je cite Heidegger, n'est-ce pas, de 20 siècles d'histoire occidentale, l'historial de l'histoire, n'est-ce pas? Alors, si l'histoire européenne s'est nouée autour de cette affaire de la mort de Dieu, de la croyance en Dieu, puis de la mort de Dieu, et que la modernité européenne serait la mort de Dieu, alors, qu'est-ce que nous apprend le cas chinois qui ne s'est pas noué autour de l'affaire de Dieu et quid de sa modernité? Est-ce que ce ne serait pas même pour cela que la Chine a emprunté la modernité européenne? Alors moi, je ne me suis pas posé la question comme ça, puisque la question, je n'aborde pas du tout l'affaire de Dieu par l'idée de est-ce que Dieu existe ou pas, donc lié à son verbe être, mais quelles ressources il y a? Je pense qu'il y a des ressources sans point de vue de foi. J'ai d'ailleurs écrit un petit livre jadis sous le titre « Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi ». Donc voilà, je mets cette question de la foi entre parenthèses, non pas que je la néglige, mais je la mets de côté, ou je la suspends. C'est ma forme d'époque. Pour essayer d'envisager quelles ressources cette pensée de Dieu a apporté en Europe, par exemple, je dirais que, à mon sens, si ce n'est pas l'idée de Dieu, on n'aurait pas produit la science. Contre l'idée banale que la science est née contre l'idée de Dieu, Galilée, n'est-ce pas, le fameux procès. C'est vrai, ça c'est l'histoire pelliculaire, n'est-ce pas? Mais au fond, le fait qu'on ait pu comme ça constituer l'idée de Dieu, portant le surnaturel, a permis qu'on puisse isoler de ça un plan du naturel absolument connaissable. C'est ce que vous voyez chez Descartes, n'est-ce pas, qui met d'un côté le mystère, on l'ope ainsi, et qu'on respecte, d'abord pour être prudent, et puis qui libère donc ce plan de la connaissance, d'autant plus, consistant, que Dieu le porte, puisqu'au fond, c'est lui quand même le garant de la vérité. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, et pour la Chine d'aujourd'hui, c'est que, parce que la question chinoise, c'est de se dire pourquoi on n'a pas franchi cette marche que symbolise pour nous Galilée, n'est-ce pas? Jusqu'au 15e, 16e siècle, la Chine est aussi développée techniquement, scientifiquement que l'Europe. Prenez les gens, prenez les avancées chinoises, l'hydraulique, etc. Mais qu'est-ce qui fait que la marche galiléenne n'a pas été franchie en Chine? Question qu'a cessé de travailler Needham du côté européen, mais les Chinois encore davantage, si j'irais de leur côté. Quelle marche ils auraient ratée, n'est-ce pas? Et qu'ils auraient maintenant rattrapée. Je crois que l'affaire de Dieu n'est pas indifférente à cela. Et donc le fait qu'on a pu isoler en Europe le surnaturel du naturel, et donc déployer un plan opératoire de la connaissance, ayant sa maîtrise propre, définitive, grâce à la séparation d'avec Dieu. Bon, autre point qui est pas essentiel, c'est qu'au fond, je pense que la tradition religieuse européenne, hébraïque et chrétienne, ne cesse d'interroger la figure de l'autre. L'autre en tant qu'autre, avec un A majuscule. Rencontre de l'autre. Est-ce qu'il y a une pensée de l'autre en Chine? Il y a une pensée de l'autre comme opposé du même, yin et yang, n'est-ce pas? Mais l'autre comme étant non pas l'opposé du même, mais l'extérieur à soi, l'étranger, n'est-ce pas? L'autre comme le grand autre, bien il me semble que non. La preuve, dire dans la langue, il a fallu 20e siècle pour qu'on dise tadj, pour dire l'autre, n'est-ce pas? C'est la langue récente, et par influence de l'Occident. Oui, je retire le mot Occident, je n'aime pas. Europe. Si on ne pense pas à l'autre, est-ce qu'on peut penser la conscience en tant que conscience de soi et donc que sujet? Je ne pense pas. En tout cas, il me semble que Dieu a été ce qui a précipité, comme on dit un peu en chimie, la conscience de soi, non pas seulement la connaissance, synesis en grec, mais synesis, la conscience de soi. En tout cas, si J. Kierkegaard, c'est bien ce que je lis, quand il dit que c'est parce qu'il s'adresse à Dieu, qu'il prend conscience de lui-même. C'est déjà ce que dit Augustin au début des Confessions. Magnus est dominé, c'est pas tué grand seigneur, et donc dans ce rapport à Dieu, eh ben, naît la capacité, à travers la confession, d'une conscience de soi. Bref, dernier point, si j'en cite seulement quatre, la liberté. La liberté comme étant, non pas comme étant cet autre plan, ouvert par rapport au phénoménal, à l'expérience, à la nécessité, cette liberté, comme on dit, métaphysique ou nouménale, n'est-ce pas, celle d'un hors-dehors du monde, ectos tou kosmou, est-ce que ce n'est pas la pensée de Dieu qui l'a soutenue? Bref, ce qui me paraît important du côté chinois, c'est qu'il n'y a pas cette rupture entre ceux qui théologisent et ceux qui physiologisent, comme dirait Aristote, et que peut-être, mais je n'ai pas le temps d'y entrer dedans, les réductions de Dieu produites par la pensée européenne moderne, je pense notamment Feuerbach, sont peut-être, ou Freud, puisque tout au fond vient de Feuerbach, chez Freud ou chez Marx, rate quelque chose de la pensée de Dieu, notamment la pensée de l'autre, n'est-ce pas ? La pensée de Dieu dans le christianisme, à mon sens, c'est pas la pensée des miracles, comme dit Feuerbach, c'est la pensée de l'autre, n'est-ce pas ? Et de la rencontre. Bref, pour dire un mot, en fait, ce petit livre en jouxte un autre sur l'incommensurable. Et pour, non pas conclure, mais arrêter de parler, je dirais qu'il y a quelque chose comme la fonction de Dieu, à mon sens, qui nomme un irréductible de l'expérience, que j'ai appelé par ailleurs l'incommensurable. Le non-commune mesure. Il y a de l'incommune mesure dans notre expérience. Tout ne met pas bord à bord. Il y a du hiatus, il y a de la fêlure. Et donc, c'est pas tant l'indicible de Dieu qui m'intéresse, question de la patristique, mais plutôt la fêlure. La fêlure aperçue dans l'expérience qui, souvent béance, et qui ne se réduit pas. Donc cet effet de sens inextinguible, Dieu nomme un inintégrable. Et c'est cette inintégrabilité que je nomme l'incommensurable, en me demandant, à la fin de mon livre, si de le concevoir comme incommensurable ne permettrait pas de mettre de côté la figure de Dieu elle-même, si c'est cela qu'elle veut effectivement exprimer. Merci de votre attention.
Je vais commencer ici. D'abord, François, merci pour ce très, très lumineux parcours. On va pas avoir le temps de dégager toutes les complémentarités entre ce que tu as dit et ce que j'aurais à dire. Je pense que sur beaucoup de choses, en fait, on est tout à fait sur la même longueur d'onde, ce que je n'ai pas en mesure de dire avec procès ou création. C'est-à-dire que je trouve...
Cher ami, on est 30 ans.
Exactement, exactement. Exactement. Et ce que je trouve, justement, en lisant Moïse ou la Chine, que l'on a, par des chemins très, très différents, abouti à beaucoup de conclusions similaires. Bon, c'est pas mon rôle ici de ce soir, je pense, de dégager ces points communs, mais j'en dégagerai quand même un pour commencer. Et c'est que on a fait ce détour par la Chine pour se découvrir, parce que je pense que c'est vraiment en cela que notre démarche a été commune. Et à cet égard, je dirais juste un petit peu de biographie. Moi, j'ai grandi dans un milieu hollandais calviniste aux États-Unis, et à l'âge de 17 ans, j'étais en Hollande, et je suis allé à Thésée. J'y ai passé une semaine au mois de mars de 1963 ou 7, je m'en rappelle plus, et 63, oui. Et pendant cette semaine, je me suis dit, ayant grandi justement donc dans ce milieu très, très, presque de bibliolatrie, je me suis dit, je comprends rien du tout à la Bible, et donc je ne le rouvrirai pas avant d'avoir d'autres yeux. Et ces autres yeux m'ont été donnés par, non pas mes 7 années à Harvard, où en fait j'ai rencontré la Chine des jésuites du XVIIe siècle, qui est tout aussi admirable que tu le décris. Mais après, il y a eu la querelle des rites. Et peut-être ce soir, en fait, on va prolonger cette querelle des rites, c'est-à-dire les autres missionnaires, les franciscains et les dominicains qui ont eu gain de cause dans cette querelle des rites. Mais lorsque je suis venu en France étudier le taoïsme avec les professeurs Schipper et Kaltenmark à l'école pratique des hautes études, j'ai tout de suite compris que ça allait me donner ces yeux nouveaux que je n'avais pas auparavant. Et la première chose que j'ai appris du taoïsme en particulier, du taoïsme maintenant religieux, non pas de Laozi et de Zhuangzi, c'est que la religion n'a rien à voir avec la foi dans le sens traditionnel de ce terme, n'a rien à voir avec la croire, que c'est une question de pratique. Et donc on dit en chinois, shoujun, pratiquer la perfection, à s'entraîner à la perfection. Et petit à petit, j'ai compris donc que le rituel, quelle que soit sa nature, catholique, protestant, musulman, en fait, c'est ce que j'appelle l'éducation du cerveau, brain training. C'est-à-dire que c'est par la pratique du rite que l'on accède à une vérité qui est véhiculée par ce rite. Voilà. Et voilà. Moi non plus, j'aime pas le mot croire. Le mot croire ne m'intéresse pas du tout. Et voilà. Maintenant, je voudrais, avant de venir à la question que je pense quand même essentielle, la question de la transcendance, l'immanence, c'est des termes traditionnels, je voudrais quand même très rapidement parcourir quelques éléments que tu viens d'évoquer. Que dit est marginalisé. Tu as tout à fait raison. Il est marginalisé, éclipsé même par le ciel. Mais après, le ciel est éclipsé par le Tao. Le Tao est ici incoatif, que tu viens de le dire. Bon, dans le taoïsme, on lui rend un culte. Et on lui rend un culte sous la forme de Laozhen, c'est-à-dire du Seigneur Lao, qui est l'incarnation. D'ailleurs, la grande collection du XIIIe siècle des immortels, comme on dit, ou des hommes qui se sont réalisés, on peut le traduire comme on veut, c'est Li Shi Jin Jian Ti Dao Tong Jian, c'est-à-dire à travers les âges, ceux qui ont Ti Dao ont incorporé le Dao. Et ceci me fait penser à un jour, je regardais une émission à la télévision dans les années 70, je pense, c'était un entretien avec Elie Wiesel, et il marchait avec celui qui l'interviewait dans les vieilles rues de Jérusalem, et il lui dit, mais dans la nuit, tu as dit que ta foi de jeune chassidim est montée en fumée lorsque tu t'es retourné en quittant le camp, et tu voyais la fumée monter, et que tu savais que c'était la fumée qui emportait ta sœur et ta mère. Il marchait encore avec son père. Et puis après, tu t'es marié et tu as appelé ton fils Aaron. N'es-tu pas en contradiction avec toi-même? Et Wiesel lui a répondu du tac au tac, il lui a dit, on ne peut être athée qu'en grec et en latin. Mais en hébreu, on ne peut pas être. On peut, parce que le nom de Dieu n'est pas un nom mais un verbe. Justement, le verbe être, mais pas n'importe quel. Bon, il y a des livres entiers sur les questions. Donc, tu peux être ou non indifférent à ton être. J'ai quelques citations d'un grand rabbin que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Abraham Joshua Heschel, et sa façon de le formuler, et que non seulement qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous sommes Abraham. C'est-à-dire que ce sont nos contemporains, ou bien comme il le formule aussi, il est le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Jacob et de moi. C'est-à-dire que mon Dieu ne peut pas être ton Dieu. Et donc, il est, et c'est là que l'on rejoint la formule que tu cites souvent d'Augustin, que Dieu est plus près de moi que je ne le suis de moi-même. Bon, donc, on pourrait dire que le rite chrétien, pour revenir au rite chrétien, a pour fonction de découvrir ce moi des profondeurs qui est le vrai moi que l'on découvre justement à travers ce dialogue que tu as bien nommé la prière. D'ailleurs, Eschel a des très belles phrases sur. Bon, maintenant je voudrais évoquer quelques points très précis. Peu de mythologie, médiation par les ancêtres, et pour dire ceci. Et c'est pour ça que j'ai dit que quelque part ce que l'on va rejouer ce soir, c'est la querelle des rites européens, pas celle des Chinois, parce qu'il y en a eu aussi, mais et parce que en fait cette vision de la Chine sans mythologie, sans grand récit, c'est la Chine de l'élite, c'est la Chine des lettrés. Ce n'est pas la Chine que j'ai rencontrée lorsque je suis allé sur le terrain, comme les franciscains et dominicains, qui donc là, j'ai rencontré la croyance, là, j'ai rencontré l'anthropomorphisme, là, j'ai rencontré la foi dans le sens traditionnel des termes et dans une très, très grande fidélité à travers des générations. Je donne juste un exemple. Le maître taoïste avec lequel je travaillais à Taipei pendant les années 80-90, il avait un joueur de la trompette du Laba. Et ce trompettiste, il avait un petit temple où il pratiquait la possession, la transe, pour répondre aux questions des clients. Et en fait, pourquoi sa famille tenait ce temple, c'est parce que son arrière-grand-père avait été guéri par cette divinité qui, par ailleurs, est totalement inconnue. Il s'appelle Yang Jiangjun, il est inconnu ailleurs, c'est une divinité locale, comme il y a des milliers en Chine. Et de ce fait que l'un de leurs ancêtres avait été guéri, et ben de génération en génération, il devrait être fidèle à cette divinité et donc à sa pratique de la possession. Parce que évidemment la possession est honnie par l'élite lettrée, mais c'est la base de la religion chinoise. C'est la base absolue de la religion chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette religion populaire? Eh ben, on trouve les grands récits. On trouve les mythes, justement. Et donc, quand on veut invoquer une divinité, Chunjingu ou autre, qu'est-ce qu'on fait? On raconte son histoire. Et moi, j'ai assisté à l'histoire de ce Chunjingu. C'est une déesse très importante dans les milieux exorcisantes du taoïsme de tout le sud-est de la Chine. C'était son histoire racontée sur 3 jours par un marionnettiste. Voyez? Donc le grand récit existe, mais il n'existe pas chez les lettrés. Il existe justement chez les illettrés. On peut pas en fait parler de lettrés en Chine parce qu'il n'y a pas de lettres. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est donc justement cette culture de la parole qui n'existe pas, de la même manière, effectivement, dans l'élite lettrée, à cause de l'écriture, justement. Justement, c'est là où intervient justement la notion de trace avec l'écriture, bon, qui contraste donc profondément, évidemment, avec le rôle de la parole chez nous. La médiation par les ancêtres. Bon, je pense que là, c'est l'une des grandes erreurs que l'on fait encore, même en milieu hardcore de la sinologie. Parce que, en fait, il y a une phrase dans le Liji qui dit « Les rites ne descendent pas jusqu'au peuple ». Pour le peuple, il y a le fa, c'est-à-dire la loi. Pourquoi les rites ne descendent pas? Ben, il suffit de lire, justement, le premier chapitre sur les rites de Shunzi, qui s'appelle Li Lun, n'est-ce pas, traité des rites, et il parle des rites, et tout ce qu'il... Pour lui, les rites, ça veut dire, justement, des sacrifices aux ancêtres. Et d'ailleurs, les taoïstes, et plus tard les bouddhistes, ils n'emploient pas le terme de Li pour les rites qu'ils font. Ils utilisent un autre terme, Kui, pour les taoïstes. Et donc, la médiation par les ancêtres, c'est quelque chose qui est très important dans tous les milieux chinois, hein, parce que le Xiao et le Zhong, les deux concepts éthiques de base du confucianisme, sont effectivement très importants aussi dans le petit peuple, mais il leur était interdit d'avoir des ancêtres. Il était interdit, donc on ne peut pas parler de la Chine et dire il y a la médiation par les ancêtres comme acte religieux par excellence, c'est vrai, de l'élite lettrée. Et tant et si bien que lorsque les néo-conciliens, à partir des Sung, ont commencé à dire, mais tout le monde devrait avoir le droit et même le devoir de rendre un culte à leur Shuzhu, c'est-à-dire à leur ancêtre premier. Eh ben, ils ont mis entre le 11e siècle, quand cette parole a été prononcée par Cheng Yi, jusqu'en 1536, donc 5 siècles ils ont attendu, avant que le petit peuple avait le droit de rendre un culte à leurs ancêtres. Et c'est pour ça que ce qu'il faut voir en Chine, c'est une scission entre le haut et le bas, entre les lettrés et les non-lettrés, qui est constitutif de l'histoire culturelle et philosophique de la Chine. Et alors, donc, effectivement, il n'y a pas de drame. Tu évoques Hoji, et dans ton livre, tu as de très belles pages sur Hoji que tu contrastes avec David, où là, il y a tout le storm et drang que l'on veut. Eh ben, oui, justement, parce que Hoji est le véhicule d'un ancêtre idéalisé, totalement idéalisé. En fait, c'est de la propagande. Il se trouve que ma thèse était sur Wu Yetunshou et son histoire, c'est l'histoire de Jiang Yuan et de Hoji, c'est le premier chapitre sur l'état de Wu. Bon. Tandis que David, c'est un être en chair et en os. Auerbach a de très belles pages dans un livre qui s'appelle Mimesis, justement sur les différences là entre David et les héros de Homère, n'est-ce pas, qui sont des caricatures de notre point de vue de moderne, tandis que David, c'est un contemporain. Donc il y a cet écart entre Hoji qui rentre dans la propagande. Alors, il y a d'autres morts, justement, que les ancêtres. Les ancêtres, c'est des êtres positifs, parce qu'ils sont la source du pouvoir de telle ou telle lignée. C'est pour ça que le peuple qui n'avait pas droit au chapitre, ni là-bas, ni maintenant, n'avait pas droit à devoir des ancêtres, parce que les ancêtres représentaient le pouvoir politique. Mais ils avaient d'autres morts dont ils avaient justement la crainte. Et encore aujourd'hui, si on étudie sur le terrain la religion, moi j'étais avec des intellectuels qui visiblement n'avaient pas du tout de croyance, du tout, et pourtant, ils racontaient tous des histoires, mais pas des histoires comme nous, on les racontait quand on était au camp à 15 ans, des fantômes, mais des gouées dont ils avaient peur, dont ils ont eu peur à un moment donné de leur vie dans leur campagne. Parce que, évidemment, la campagne est remplie. Et il y a un mot qui apparaît déjà dans le Zhuzhuan, qui est un commentaire sur, justement, l'un des classiques, mais qui raconte les dessous de l'histoire, n'est-ce pas? Et pas cette belle histoire de propagande. Et ça s'appelle des ligui, c'est-à-dire des gui, terrible, des gués dont on a peur, hein, et c'est la source principale des divinités de la religion populaire et quelle est justement leur façon de d'agir dans le peuple. Eh ben, c'est par leurs manifestations, leurs exigences, que s'ils sont pas satisfaits, ils font du mal, ils sèment des épidémies. Et donc, il faut leur rendre un culte si on veut éviter, justement, qu'ils te fassent mal. Et donc, il se développe, justement, une relation, je dirais, contractuelle, qui n'est pas sans rappeler l'alliance contractuelle entre Dieu et Abraham à travers les promesses. Bon, autre question, l'opposition entre prière et rite. Dans la mesure où rite est lié, non. Parce que justement, ce que moi j'ai constaté lorsque j'ai commencé à lire des textes du taoïsme religieux, ce que j'ai vu, c'est que ce qui remplace la prière, c'est la visualisation. Et c'est par la visualisation qu'on effectue encore aujourd'hui la communication avec le Tao. Alors je voudrais juste très rapidement évoquer cette communication avec le Tao. Je ne crois pas que je vais avoir le temps parce que j'avais préparé une série qui montre comment de photos, qui montre comment le rituel de communication avec le ciel ou avec le Tao s'effectue encore, je l'ai vu donc surtout à Taïwan mais aussi en Chine, mais dans le taoïsme, je dirais cette fois-ci de l'élite. Et une très très longue préparation, purification de l'air sacré, fermeture de l'air sacré, naissance du monde par le Dao Sheng Yi, Yi Sheng Er, Er Sheng San, donc le Dao qui donne naissance à l'un, l'un au deux, le deux au trois, et puis le trois au... Tout cela est mimé dans le rituel. Et enfin, il y a l'envoi d'un message au ciel, un message écrit, qui ensuite va être brûlé pour le communiquer au ciel. Et on voit que pour cela, d'abord il déroule un grand rouleau sur lequel est marqué le mot « tchue », c'est-à-dire le mot « porte », « porte du ciel ». Et derrière cette porte se trouve quoi? Se trouvent les Sanqing, c'est-à-dire les trois purs, c'est-à-dire les origines pures du ciel, des souffles donc purs à l'origine du ciel, de la terre et des hommes. Or, il est très intéressant de savoir que justement c'est le troisième de ces trois purs qui, justement, parce que c'est lui qui en arrive. Le premier c'est le ciel, le deuxième c'est la terre, c'est donc ce que je dis toujours, il n'y a pas d'univers en Chine, il y a un bivers. C'est cette Tiandi qui ouvre un espace dans lequel quelque chose peut se passer. Ce qui se passe, c'est l'homme. Et aussi, ce qui circule, c'est l'eau entre le ciel et la terre. Bon, donc il y a deux triades. Il y a une triade naturelle que l'on place au fond de l'air sacré et une triade culturelle qui donc incorpore l'âme en troisième position. Mais trois, évidemment, c'est un, porté à la manifester, à ce qui est manifesté par opposition à ce qui est encore incoatif, mais englobe tout le Dao. Bon, alors... on ne voit sur ce rouleau sur lequel figure en grande le port Chue, porte, on voit un maître taoïste qui est assis en méditation. Et dès le début du 5e siècle, on a le récit suivant qui raconte comment on fait la communication avec le ciel. Il commence par penser à un souffle Yuan Qi, hein, un souffle original qui est au fond de sa ventre, de son ventre. Et petit à petit, ce souffle monte, qui prend la forme d'un enfonçon. Hein. Et ensuite, il monte jusqu'au cœur. Et le cœur s'appelle, dans des textes alchimiques intérieurs, ultérieurs, Jui, c'est-à-dire robe rouge. Qu'est-ce que c'est une robe rouge? Eh ben, c'est un taoïste. Et donc, il devient un jeune taoïste. Ensuite, il continue son périple à travers, il y a une espèce de tour sur des figures du corps plus imagées. Il passe et puis ensuite, il y a le problème du cerveau. Ça s'appelle j'appelle ça des brainstorms parce que justement, c'est des vents terribles dans le cerveau qui essaient d'empêcher ce message qui vient du fond du ventre du prêtre, mais qui en fait va porter le message de la communauté pour laquelle il va envoyer ce message écrit. Voilà. Et donc, enfin, il traverse le cerveau et puis il visualise la sortie de sa tête et il va au ciel. Et là, au ciel, il y a la cour céleste. Il y a, comme à Pékin, il y a quelqu'un qui vient ouvrir un portier, qui ouvre la porte, qui l'introduit, et d'abord il voit Tai Yi, le grand un, qui joue un rôle très intéressant comme Dieu suprême à l'époque d'Ahamoudi, au deuxième siècle avant notre ère. Bon, peu importe. Et puis, donc, il passe le message écrit, il le passe à au portier, le portier passe à quelqu'un d'autre, et ça finit par arriver à Tai Yi, qui le regarde, et puis il va à l'intérieur, derrière les portes fermées, pour porter le message à Lao Jun, donc celui qui incorpore le Dao. Et, enfin... après quelques temps, pendant tout ce temps, il est en méditation, et la version que j'aurais pu vous montrer avec les photos, mais je dis, on n'aura pas le temps, clairement. Le prêtre est en forme de tortue, complètement abîmé en lui-même, à genoux, à penser cette montée au ciel et cette audience au ciel, parce que c'est une audience au ciel. Et enfin, quelqu'un ressort de cet intérieur fermé, dans lequel il n'aura pas accès, une espèce de saint des saints, pourrait-on dire. Et il marque de son sceau la mémoire écrite, le repasse au prêtre, et puis il recommence à visualiser la descente. Alors c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Au fur et à mesure qu'il redescend dans son corps, il vieillit jusqu'à ce qu'il ait des cheveux blancs et qu'il ait donc Lao Tzu, le vieil enfant. Donc il est le vieil enfant qui incorpore le Tao grâce au fait qu'il ait fait ce périple en lui-même, totalement en lui-même, par la visualisation et pas par la prière. La prière est écrite, il a été prononcé, mais le véritable envoi, c'est par cette façon de porter, par la visualisation, et puis ça a un impact immédiat sur lui. Bon, alors, donc le rôle de la visualisation qui évidemment est cohérent avec la place de l'écriture dans la Chine traditionnelle. Juste quelques autres réflexions rapides. Donc, Yi Yin Yi Yang Zhi Wei Dao. Tout à fait, c'est la phrase célèbre du commentaire du I Ching. J'observe, moi, par l'étude justement de l'histoire de ces gens qui ont Yi Dao, qui ont incorporé le Dao, que l'on arrive à la secte taoïste Chuanzhen au 11e, 12e siècle, et leur figure centrale sont Lu Dongbing, l'un des huit immortels, son maître à lui, Wang Chongyang. Or, Wang Chongyang, ça veut dire double yang. Lu Dongbing, son autre nom, c'est Lu Chuanyang, c'est-à-dire entièrement yang. Et donc, on voit qu'on passe de Dao mère dans le Lao Tzu, de Zhuangzi qui dit les anciens ne savaient pas qui était leur père, il n'y avait que la mère, par une sorte de masculinisation de l'histoire qui, à mon avis, est universelle, en tout cas correspond aussi à notre propre histoire, qui est aussi une spiritualisation, une intériorisation. Et donc, on voit bien que par là, qu'en fin de compte, il y a une visée de transcender ce bas monde pour accéder au ciel et accéder au Dao. Une dernière chose que je dirais à propos de ce Dao dans la religion taoïste, c'est comme ils imitent les pratiques de la cour. Quand on écrit un mémoire au ciel, à la cour, il faut respecter une certaine manière très précise, justement, l'étiquette. On doit mettre le verbe qui a trait, justement, à ce que l'on demande à l'empereur en bas de la ligne. Et il faut mettre Di, ou Huang Di, en haut de la ligne. Et ben Dao occupe exactement la même place. Alors, pour terminer sur cette question-là, je voudrais évoquer un article de Jean Lévy que je trouve vraiment brillant, qui a d'abord publié aux éditions du CERF dans un livre que j'ai édité, sur religion et société en Chine ancienne et médiévale, et c'est sur le rite, la norme et le Dao. Donc le rite, le Li, la norme, évidemment Fajia, la loi, la norme, et puis le Dao. Alors, ce qu'il montre là, c'est d'abord, il analyse le sacrifice au ciel, justement, des Zhou, et il décrit le rituel. Qu'est-ce qu'il décrit? Eh ben, il y a deux taureaux qu'il faut élever pour préparer ce sacrifice au ciel, qui normalement devait avoir lieu tous les 3 ans. Ceci, en tout cas, à partir de l'an 25 de notre ère, il est déjà décrit, et moi, je pense que ça existait, Jean Lévy aussi, Marianne Bujard a une autre opinion, mais bon, peu importe. C'est décrit, ce sacrifice au ciel, et la description de Jean est basée sur le Li Ji et le Zhou Li. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu élèves les deux, mais il faut que le taureau pour le ciel soit impeccable, qu'il n'y ait aucune infirmité, aucun défaut. Donc, on doit élever les deux de la même manière. Au cas où quelque chose arrive au nio pour le ciel, pour qu'il puisse utiliser celui pour Hoji, justement, pour l'ancêtre. Donc déjà, l'ancêtre, là, dans cette version très politique de la religion chinoise, ou très religieuse de la politique chinoise, il y a cette façon d'associer justement l'ancêtre, en l'occurrence Hoji, au ciel. Et c'est exactement ce qui va être continué tout au long de l'histoire avec le Tiantan, l'hôtel du ciel à Pékin. Bon, alors, donc, ce premier niu sacrifié au ciel doit être brûlé entièrement. Il ne faut pas qu'il y ait de reste. Pourquoi? Parce que tout vient du ciel. Donc avant qu'il y ait le Dao, tout vient du ciel. Donc lorsqu'on lui rend un sacrifice, il faut tout rendre. Par contre, donc là, on est au niveau de la transcendance. Pour lui, je pense qu'il a raison. Par contre, le bœuf pour Hoji, donc l'ancêtre mythique, lui, il va être consommé. Et donc, on va le cuire. Il y a des parties que l'on va laisser crues. Mais ensuite, il y a une sorte de communion qui commence par celui qui incarne l'ancêtre. Normalement, c'est le dauphin, c'est-à-dire le petit-fils de l'ancêtre, du grand-père. Donc, c'est une religion de possession, comme va rester la religion populaire, mais à l'époque royale, c'était la religion royale. Bon, donc, le petit-fils, il est possédé, il joue le rôle du grand-père, et donc c'est lui qui doit consommer les premiers morceaux de ce bœuf cuit. Et ensuite, c'est le fils du ciel lui-même, ensuite c'est ces trois sangongs, ces trois officiers, et puis ça descend. Et donc, il y a un terme que Lévi évoque, c'est le shiroj. C'est un terme que l'on trouve dans beaucoup de textes classiques, c'est ceux qui mangent de la viande. Eh ben, il y a que l'élite qui mange de la viande. Et en échange, donc, de ce don de viande, parce qu'il appelle la cascade des restes, Boileau utilise le même terme, en retour, justement, l'élite, les fonctionnaires, ils doivent lui rendre la loyauté, le bao, hein, le hui bao, c'est donc la loyauté. Bon, donc ce que montre ensuite, justement en passant par Shunzi, dont il dit des choses très similaires à ce que tu en dis, degré zéro de la transcendance, c'est la phrase que tu emploies pour parler de Shunzi, très très juste, qu'arriver à ce terme de l'évolution de la pensée, bon, disons, confucéenne de la pré-impériale, on arrive justement à ce rite qui est complètement vidé de son sens premier, qui était justement d'associer les ancêtres avec le ciel. Mais qu'est-ce qui le remplace? Et c'est le Dao. C'est justement le Dao qui donc récupère les éléments de la transcendance qui caractérisaient le ciel. Et ensuite, on va donc recréer ce sacrifice au ciel qui va être la prérogative à partir donc de l'an 25 avec le fondateur des Han postérieurs qui va devenir jusqu'en 1916, pas la chute de l'Empire en 1911, mais 1914, Yuan Shikai qui a fait le dernier sacrifice au ciel. C'est la prérogative, justement, du Fils du Ciel. Justement parce que lui seul a le droit de communiquer en tant que médiateur, en tant que prêtre, en fait, grand prêtre de la nation. Et ceci, évidemment, touche à un problème de fond. Je pense que qui continue à être le cas. Moi, j'ai écrit un livre dans lequel j'ai dit China Religious State, c'est-à-dire, justement, il n'y a pas cet écart entre César et il n'y a pas ces deux royaumes. Et étant donné qu'il n'y a pas ces deux royaumes, religion ou idéologie et politique sont toujours confondus. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, j'avais 89 diapos à vous montrer, mais on ne va pas les montrer. Et donc, je te passe la parole.
Merci de ton intervention, parce que, vous voyez, c'est difficile d'arriver à ménager les conditions d'un dialogue. Ouais. C'est pas le dialogue, ça c'est pas comme ça, d'emblée. Il faut que les terrains se rapprochent et que, disons, là aussi du vis-à-vis s'organise, pour que, disons, on puisse effectivement dialoguer. Alors d'abord, je pense qu'il y a une différence de terrain. C'est que toi, tu as un terrain. Moi, j'en ai pas. Et donc, c'est aussi un écart entre anthropologie ou ethnologie, qui est ta vocation, et puis ce qui s'esquisse comme philosophie, qui n'est pas détachée du social, mais qui tente de d'opérer dans la pensée, et donc, de ce fait même, qui s'abstrait des certaines pratiques sociales. Je veux dire par là que ce qui est difficile, c'est que ce que j'ai voulu faire, c'est un livre de philosophie, n'est-ce pas ? De philosophie, c'est-à-dire essayant de prendre à bras le corps cette question de Dieu qui est tellement impliquée dans la pensée européenne, pour essayer de la déranger. Donc, je suis obligé de... D'abord, je reste au texte. Je n'ai pas d'expérience de terrain au sens d'enquête anthropologique, ethnologique, etc. Je suis dans les textes. Tous les textes possibles. Et avant les textes confucéens, taoïstes, qu'on les classe, mais les premiers textes chinois, c'est-à-dire les premières traces écrites qu'on ait, pour les interroger. Mais ce qui m'intéresse, c'est jusqu'où peuvent aller les écarts de pensée. Et en quoi ce qu'on découvre en Chine dérange, ébranle, la pensée européenne, et l'oblige à penser en interrogeant ce qu'elle n'a jamais pensé, à savoir sortir de l'opposition existence ou pas existence de Dieu, croyance, incroyance, donc tout ce qui s'est focalisé, crispé sur l'affaire de Dieu en Europe. C'est ça qui me paraît, en tout cas, d'un point de vue philosophique, pouvoir être pertinent. Alors, deux choses.
Simplement, je suis totalement d'accord avec toi et avec cette démarche. Je trouve
oui, alors, tu sais, c'est gentil d'être d'accord avec moi parce que je suis plutôt solitaire dans cette démarche. Je te cacherai pas que, par exemple, à titre d'anecdote, quand j'ai offert ce livre à la bibliothèque des études chinoises au Collège de France, il a été refusé. Alors, je l'offrais. Ce qui montre qu'il y a des effets de censure un peu têtus dans la sinologie. Passons. Mais ce que je veux dire, c'est, alors quand tu dis grand récit, oui, il y a multitude de récits, mais est-ce que ces récits de filiation sont un grand récit ? C'est là que l'évaluation de grand récit, c'est pas seulement qu'il y a des récits, bien sûr il y a des récits, on raconte des choses, mais ce qu'on appelle grand récit dans la tradition européenne, c'est disons un récit constitutif, un récit, si tu veux, qui organise la civilisation. Et donc c'est un statut différent de du fourmillement de récits, disons, que nous trouvons en Chine comme ailleurs. On raconte des histoires, oui. Mais est-ce que ces histoires forment un grand récit ? C'est la question. Alors moi, je suis, tu l'as remarqué, très réticent à employer les termes d'immanence et de transcendance. Bien sûr, c'est commode. Peut-être trop commode. Parce que j'ai le sentiment, si tu veux, que... Alors, au niveau des textes, si je prends le texte de base de la pensée chinoise, la science s'accorde de tous, le classique du changement, comme Yi Ting, au fond, la figure du ciel, est-ce qu'elle est... Elle dit une transcendance, certes, mais une transcendance, je dirais, par totalisation de l'immanence ou absolutisation de l'immanence. Il y a notamment le cinquième trait, le trait dominant, le trait, bon, c'est un trait culminant, mais ce qui me paraît important, c'est que ce n'est pas une transcendance d'extériorité. Or, dans la tradition religieuse européenne ou philosophique, la transcendance, quand même, suppose une extériorité. Or, il me semble que la pensée chinoise ne s'est pas intéressée à la question de l'extériorité. Par exemple, les hexagrammes, il y en a 64. Il n'y a pas la place pour un autre, ou pour un dehors. Donc, pas de pensée du dehors, ou un dehors qui est seulement le répondant du dedans, Nai Wai, n'est-ce pas ? Le dedans chinois, le dehors étranger. Mais pas de dehors en tant qu'extériorité, et donc lieu de l'autre. De l'autre en tant qu'autre.
Je peux t'interrompre là un instant, simplement pour te dire ceci, qu'un beau jour, j'étais à un colloque à Princeton, c'était en 2010, Et j'ai pas, c'est sorti comme ça, j'ai dit...
En Chine, il n'y a pas d'autre. Et la personne a répondu en se moquant de moi, mais je suis totalement d'accord avec toi que c'est un problème absolument fondamental de différence ou d'écart, comme tu veux, le manque de la possibilité de cette ouverture à l'autre. Je pense que c'est très, très...
Merci de le dire. Parce que je crois qu'effectivement, c'est déterminant. Et pour la Chine d'aujourd'hui. Et le rapport de la Chine avec le monde, n'est-ce pas ? Est-ce que ce rapport dedans-dehors, et donc le dehors changeant, dehors européen au XIXe siècle, dehors américain au XXe siècle, bon, ça me paraît essentiel. Alors quand tu dis différence ou écart comme tu veux, non, pour moi, c'est pas comme je veux. C'est qu'il y a vraiment, j'ai fait une distinction entre les deux, puisqu'il ne s'agit pas, si tu veux, c'est de voir jusqu'où peut s'écarter la pensée humaine. Pour moi, écart, c'est un concept exploratoire. De voir jusqu'où il y a des écarts possibles entre les langues, entre les pensées, et ce que ça donne à penser. En quoi la pensée humaine est diverse. Et donc, notre charge à notre époque, je crois, c'est justement, c'est d'explorer tous ces écarts possibles pour produire une sorte d'auto-réfléchissement de l'humain. Puisque c'est plus un humain qui serait pensé comme ça dans une définition première, mais ben, l'humain se pense à partir de tous les écarts d'intelligibilité qu'il a produits. Alors, autre question, bon, ça serait infini d'en parler, mais quand tu dis « le Tao remplace le ciel », oui, sur ton terrain, celui d'un Tao, de l'enseignement du Tao, mais si on s'en tient à la tradition lettrée la plus, disons, qu'on appelle bêtement confucéenne, mais disons celle des lettrés en tant que lettrés, des joutiens, enfin, ou des fonctionnaires, je ne crois pas qu'il y ait de passage historique de l'un à l'autre. Je pense qu'il y a, les deux ne cessent de se... d'être contemporains l'un de l'autre. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que, donc, de transcendance, il y a une transcendance, à mon sens, de totalisation de l'immanence, ce que dit le ciel. Il y a une infinité de processus divers, mais le ciel en est l'enveloppe globale. C'est pas, ce qui n'est pas une transcendance par extériorité, par, disons, abyssale, comme l'est la transcendance qu'a développée la pensée européenne, et qui fait le vertige, qui fait, disons, ce que j'appelle les fractions de sens, etc. Parce que pour penser à la transcendance en tant que transcendance, franchement, l'Europe est plus intéressante que la Chine. Par contre, du côté chinois, la pensée de l'insi, du jan, enfin, de tout ce qui est le zhejan, le spontanément ainsi, me paraît intéressant parce que, elle a... Bien sûr, chez Aristote, il y a une pensée de l'immanence. Ennu par con, traduit par immanent. Simplement, ce sont des formes, disons, moindres d'existence. Les champignons ou la moisissure, chez Aristote. Alors que l'immanence, ce qu'on appelle immanence chinoise, n'est-ce pas, c'est au fond cette idée de régulation, de viabilité, c'est-à-dire au fond d'une cohérence des choses par elles-mêmes qui évite la question du sens. C'est ça qui me paraît, disons, intéressant à interroger, parce que, en retournant vers la philosophie, est-ce que ça provoque donc des étonnements pour elle. Donc, au fond, la question, me semble-t-il, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai noué autour de ce petit livre, c'était de dire, au fond, quel est l'atavisme de la philosophie, tradition européenne, nouée dans l'affaire de Dieu, et que le fameux « la mort de Dieu ne résout pas, ou ne règle pas, ou ne met pas de terme ». La preuve à quel point Nietzsche lui-même est dépendant de l'idée de Dieu et du christianisme et de tout ça. Donc au fond, est-ce que... Alors c'était ma proposition, mais je l'ai laissée en dernière page de ce livre parce que je l'ai développé à côté, c'est qu'est-ce que, disons, a porté la pensée de Dieu du côté européen, ce que j'ai appelé l'incommensurable. Et est-ce que la pensée chinoise, elle, est ouverte à l'incommensurable? Il me semble que non, justement. Elle a une idée d'une sorte... C'est pour ça qu'elle est dans l'harmonie. Parce qu'au fond, le grand mot de la pensée chinoise, qu'on veuille ou non, c'est Taihe, c'est la grande harmonie, qui est une façon de dire la régulation dans son déroulement, dans son processus, bref. Mais est-ce qu'une pensée... et la question est pour aujourd'hui. Est-ce que la Chine d'aujourd'hui n'incarne pas encore cette idée d'une harmonie, cette idéologie plutôt, d'une harmonie, n'est-ce pas, par régulation, par équilibre, le haut et le bas, etc. Qu'est-ce qu'elle laisse de côté? Et est-ce qu'on peut penser l'expérience seulement sous la figure de l'harmonie, de la corrélation du ciel et de la terre. Est-ce qu'il n'y a pas de fracture? Est-ce qu'il n'y a pas de quelque chose qui donc n'est pas bord à bord, du hiatus, n'est-ce pas? Et est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça que Dieu a porté dans la pensée européenne? Et ma question, qui est une question qui était personnelle, qui était de dire, est-ce que si on pense ce hiatus, cette fêlure, cet incommensurable, est-ce qu'il faut encore la figure de Dieu, n'est-ce pas, pour l'assumer?
Mot en réponse à ce que tu viens de dire. Encore une fois, je pense que tu as tout à fait raison. Je viens de lire, c'est le coin des penseurs de Michel Masson qui paraît tous les mois. Il n'est pas encore sorti, c'est sur un certain Fang Yao-hui. Et il dit exactement cela. Tianren-he-yi serait le mot, les dernières paroles prononcées par Tianmu. Ça, c'est la Chine. C'est l'unité du ciel et de l'homme. Et effectivement, en dehors de cette harmonie, moi, je me marrais dans les années Hu Jintao, ils ont inventé le TGV Hexie. Et donc, chaque fois qu'on prenait le train, on était obligé de penser à leur Hexie, Shehui, n'est-ce pas? Bon, la société de l'harmonie. Bon.
En plus, oui. Je veux dire aussi que les Chinois aujourd'hui utilisent l'harmonie contre les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un usage politique qui est usage, disons, ils vendent l'harmonie et même essayent de coaliser non-Europe, qui serait celle de l'harmonie, en mettant l'Inde, en mettant tout ça, face à quelque chose qu'ils ont éjecté de leur pensée, qui est les droits de l'homme. Justement, les droits de l'homme disent quoi? Disent de l'incommensurable. Ouais. C'est qu'au fond, les droits de l'homme, ce n'est pas seulement une affaire de faire émerger l'homme comme ça, comme, disons, chose unique ou, disons, exceptionnelle. C'est simplement que, c'est-à-dire qu'il y a l'incommensurable. Et qu'il y a ce qui fait l'homme, c'est qu'il introduit de l'incommune mesure dans la mesure du monde. Maintenant, la pensée chinoise, elle est celle de l'harmonie du monde, n'est-ce pas? Du tiendi, de cette union, de cette sansai, hein, parce que tu évoquais les trois partenaires. Ou... Alors, la question qui se pose aujourd'hui, je crois, c'est qu'est-ce que peut dire la philosophie? Qu'est-ce que peut dire l'Europe par rapport à ce qui advient aujourd'hui comme saturation du monde, du marché mondial, de tout ce qui est, disons, cette... comme une mesure qui fait le monde, et par rapport à quoi l'Europe, la philosophie, si elles ne disparaissent pas, peuvent avoir quelque chose à dire. Et c'est cette parole-là que je voudrais aussi porter.
D'accord. À vous.
Je serais d'accord avec vos termes, et c'est ce « on peut rester quoi » qui m'intéresse, n'est-ce pas? Parce que c'est là que la philosophie commence, bon, pour moi en tout cas. Je crois que au fond, d'abord, bien sûr, la Grèce c'est pas la Bible, hein, c'est pas. Il faut cesser de travailler cet écart, parce que l'écart il est pas seulement la Chine par rapport à nous. Il y a l'écart interne de l'Occident, et même l'Occident. Enfin, j'aime pas ce mot, l'Europe, est un terme qui n'a cessé de se développer par écart interne. Et aussi bien que l'écart de l'hébreu et du grec est fondamental, y compris dans la traduction de la Septante et de tout ce qui a été, qui ne cesse de mettre en tension. Parce qu'une traduction, une vraie traduction, c'est une mise en tension. C'est pas une assimilation, c'est pas un rabattement d'une langue dans l'autre. C'est l'exercice de tension entre deux langues. Donc, travail de l'écart. Donc l'écart, il est interne à l'Europe dans sa diversité. Et il me semble qu'effectivement, alors, en même temps, qu'est-ce qui fait Europe? À partir de cet écart, disons, essentiel, de, disons, pour le dire à la façon de Hegel, bonheur grec et conscience malheureuse juive, ou pour le dire en termes de Kierkegaard, les Grecs, les Juifs, n'est-ce pas, Athènes, Jérusalem. Cet écart-là qui a mis en tension l'Europe et qui a porté l'Europe et qui a déployé l'Europe, à mon sens, n'est-ce pas, porteur parce que fécond, n'est-ce pas, fécond et fécond dans la philosophie elle-même. Je crois que cet écart, il faut donc ne pas le rabattre et en même temps se demander qu'est-ce qui s'est tissé depuis plus de 2000 ans de dialogue entre côté hébraïque et côté grec, hellénique, dans le grec même, de la traduction de la Bible en grec, etc. Donc, Philon d'Alexandrie, en fait, toute cette tradition-là. Et disons, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle époque où la Chine pourrait intervenir, n'est-ce pas, par rapport à cela? Mais autant je vois de travail qui s'est fait pour que, entre les Grecs et les Juifs, entre du tissage se fasse et de la réflexion se fasse, autant je vois peu encore avec la Chine. Et la Chine d'aujourd'hui fait tout contre ça, hein, faut quand même le dire. Réécrit la Bible à sa façon. Donc, est dans le contraire du dialogue et de ce qui serait, disons, l'invention d'une parole travaillant entre les deux. Et ce qui a fait Europe, c'est pas justement cette tension si forte entre tradition hébraïque, tradition grecque, n'est-ce pas, et qui fait que l'Europe est ce lieu d'étrangeté qui n'a cessé d'être justement habité par du négatif, du questionnement, porté par la philosophie. La Chine, par rapport à ça, paraît quand même extrêmement indifférente à ce questionnement. Et l'affaire de l'harmonie me paraît une sorte de couvercle idéologique qui aujourd'hui essaie d'effacer les contradictions. Est-ce qu'elles ont d'intense? Est-ce qu'elles ont de fécond? Donc ça pose la question du monde à venir. Et du G2, n'est-ce pas? Et de tout ce qui aujourd'hui risque d'être recouvert par une sorte de mondialisation qui stérilise, sature et stérilise à la fois ce qu'on appelle le monde.
Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous avez un avis sur la médecine chinoise, c'est-à-dire par rapport à la question du mal en particulier?
Excusez-moi, monsieur, mais il y a une question qui est posée actuellement dans la salle, donc il faudrait attendre votre tour. Je sais que vous ne pouvez pas l'entendre, mais c'est ainsi. Donc, veuillez...
C'est compliqué, notre... Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est pas, qui est la machine de guerre organisée par le pouvoir chinois, et effectivement, sans pudeur, est prête à nous enseigner ce qu'est la philosophie grecque. C'est pas. Moi, j'ai assisté à ça, vous savez, j'avais écrit un petit livre sur le nu impossible. Pourquoi il n'y a pas de nu dans l'art chinois? C'était pas un défaut, c'était un constat. C'est comme ça. Eh bien, j'ai été pris à partie à l'Université de Pékin dans un colloque sur mon travail, où on confondait Platon et Plotin sans aucune hésitation, et où on faisait une graisse de pacotille, totalement plaquée, totalement, formatée selon le besoin idéologique chinois du jour, n'est-ce pas, comme machine de guerre. Bon, alors ça, je préfère que les Européens ouvrent les yeux. C'est pas, ouvrent les yeux. Je suis sensible au fait que vous soyez resté bouche bée devant ça. Mais je pense qu'au-delà de la bouche bée, il faudrait que la bouche se mette à parler et se mette à protester. Parce que tant que nous ne protesterons pas contre cette mainmise de l'Europe, enfin de la Chine sur l'Europe, soi-disant en termes européens, et donc convertis aux attentes chinoises, nous sommes morts.
C'était tous des lobbyistes.
Ben oui, mais la philosophie, c'est quand même de résister aux lobbies, n'est-ce pas? Ou alors elle n'a pas de raison d'être. Il faudrait commencer à dire les choses, n'est-ce pas? Et par rapport à la Chine, je pense qu'il est temps d'arrêter, cette sorte de pensée molle, plus ou moins consensuel, où on veut être compréhensif, où on veut être intelligent. Non, il y a, quand on voit à quel point ce qu'ils disent de la pensée européenne, connais-moi ce petit bouquin sur l'affaire du nu, c'est comme Dieu, si vous voulez, et quelles sont ces choses, ces singularités culturelles qu'il faut interroger, eh bien, il y a une traduction en chinois, sans autorisation, bien sûr, sans droit, bien sûr, et changeant toute l'iconographie. J'ai mis toute autre chose. Mais c'était quand même sous mon nom, n'est-ce pas? Donc cette falsification aujourd'hui de la pensée européenne et aussi de la pensée biblique, quand ils réécrivent la Bible, n'est-ce pas? Et il faut la dénoncer, et il faut, je crois, en faire, un axe fort de protestation. Donc là, nous sommes dans une passivité pseudo-intelligente et qui, risque de nous faire chavirer. Moi, je ne suis pas pour la monnaie, vous voyez, hein.
Excusez-moi, madame, mais je crois qu'il faut écarter la Mongolie. Ah, on est là pour parler de la Chine et on n'a pas le temps. Ah, s'il fallait parler du chamanisme, il faudrait parler du chamanisme en Chine, mais pas en Mongolie. Donc,
non, je dis juste un mot par rapport à ça. La fin du chamanisme, moi, me paraît très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est au milieu du continent asiatique et qu'on en trouve en Grèce, comme on en trouve en Chine. Prenez Parménide, le début du poème de Parménide a quelque chose de chamanique. Donc le chamanisme, c'est un gros truc qui s'est comme ça développé dans l'Asie centrale, jusqu'en Grèce d'un côté, jusqu'en Chine de l'autre. Simplement, ce qui me fait écart, à nouveau, me semble-t-il, c'est du côté chinois, le chamanisme a été recouvert par la tradition que parlera lettré, pour aller vite. Bien sûr, ça se trouve en Chine. Simplement, culture du Sud davantage, ou culture du Zhuangzi, on voit bien dans le Zhuangzi tout ce qu'il y a de chamanique. Mais disons, ce qui est singulier dans l'affaire lettré, si on la désigne comme ça, c'est qu'elle a cherché à écraser le fond chamanique qu'on trouve si important en Corée, au Japon, dans la Chine du Sud, et encore une fois qui a été si expansive entre les deux côtés du grand continent, puisqu'on la trouve en Grèce aussi. L'intérêt, c'est au fond, qu'est-ce qu'à partir d'un fond chamanique comme ça, si diffus, la tradition chinoise, qui va prédominer, celle des fonctionnaires, celle des lettrés, celle des textes classiques, va tendre à recouvrir, à écraser. Et ça, je crois que c'est important à penser, si vous voulez. Parce que le chamanisme est partout.
Et j'y ajouterai que c'est la révolution culturelle qui porte à son maximum, justement, cet écrasement de la religion, en fait, populaire.
Parce que c'était une surbureaucratie, en fait.
Oui. Le monsieur qui voulait poser une question, vous voulez le poser maintenant?
Oui. Est-ce que vous voyez un rapport entre tout ce que vous avez souligné de cette extrême cohérence, de cette extrême régularité entre tous les éléments du monde qu'on trouve dans la pensée chinoise, cette extraordinaire cohérence d'un côté, et puis d'un autre côté, ce risque de totalitarisme que vous venez d'évoquer par la question que j'ai pas tout à fait entendue, mais il semblerait que la question du pouvoir et du totalitarisme, est-ce que, bien sûr, il y a un lien, mais où on repère le passage entre cette extrême cohérence de l'harmonie ou de la liberté quelque part de l'homme, à partir de quel moment on peut passer à un totalitarisme? Oui, est-ce que la pensée chinoise nous aide à voir ce passage, ce risque-là?
Alors, si je comprends bien votre intervention, qui paraît précieuse par les termes qu'elle pose, à savoir cohérence de la pensée et, disons, appareil du pouvoir, il me semble justement que ce qu'on voit, c'est que l'idéologie de l'harmonie conduit au totalitarisme. Justement, il n'y a plus le hiatus, la faille, enfin, par où la liberté pourrait s'exprimer. Donc, quand vous avez dit cohérence et liberté, pour moi, la liberté échappe à la cohérence. La cohérence, c'est ce qui fait tenir ensemble les choses, c'est ce qui fait monde, c'est la grande logique de la corrélation chinoise. La liberté est une pensée grecque. Grecque, pourquoi ? Parce que, justement, elle n'entre pas dans l'harmonie, elle fait fraction en elle, et elle permet justement de penser un plan du politique séparé du plan naturel. Ce qu'on doit aux Grecs, à mon sens, c'est d'abord ça. C'est le fait qu'ils ont pensé le politique comme en propre. Les eidetes et politeias, les formes du politique qui n'étaient pas alignées sur le naturel. Bien sûr qu'il y a des logiques naturelles, mais disons, les Grecs ont pensé un plan du politique, qui est celui de la cité, organisé autour de la liberté. Et donc, ils ont décroché du familial ou du naturel pour penser à un ordre propre. Et je crois que c'est ça qui est précieux en Grèce, c'est qu'il y a un ordre du politique. Alors que la pensée chinoise, intégratrice comme elle est, fait du politique une dimension du familial. Enfin, c'est ce que le propre du souverain chinois, le Wang, il est là. Enfin, il est celui qui est le médiateur entre l'ordre cosmique et l'ordre humain. Et donc, il fait entrer la norme cosmique dans le social. Mais c'est encore le rôle de Xi Jinping aujourd'hui. Donc je crois que les Grecs nous ont, comme Montesquieu dit que les Chinois ont tout confondu, on peut dire que nous avons distingué, mais nous avons distingué justement ça. Un plan du politique propre par rapport au plan du familial, du naturel en général. Et c'est, je crois, très